sois pas victime de la révolution de l'intelligence artificielle. Fais-en partie. Apprends les outils et techniques modernes du développement logiciel natif à l'IA. En aussi peu que 4 mois, décroche un emploi qui mettra à l'œuvre tes nouveaux talents. On garantit ta réussite avec des coachs professionnels qui livrent une formation personnalisée en mode simulation. Mets ta carrière à jour. Inscris-toi d'ici le 12 janvier et obtiens 50 % de rabais sur ton dépôt d'inscription. Visite academy.codebox.com ou appelle-nous dès aujourd'hui.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après-Noël. Jusqu'au 6 janvier, obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une vaste sélection d'articles pour toute la famille. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
Maison Adam.
Profitez des soldes d'après-Noël et d'une expérience d'achat clé en main avec les experts de Maison Adam. Procurez-vous le téléviseur OLED 55 pouces B5 de LG à seulement 999. Un excellent rapport qualité-prix. Passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier pour des conseils personnalisés et un service d'installation sur mesure au meilleur prix.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Capsule.
Radio X.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de pourvoirie dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Faites plaisir aux petits et aux grands. Rajoutez des pizzas Ludo à votre buffet des fêtes et sauvez beaucoup d'argent. 2 pizzas 9 pouces pour 12 $ chez les marchands participants. Faites vos provisions. Aliments Ludo, décongeler, cuire, servir. Attention, l'hiver peut vous surprendre. Gardez vos distances. Mais si malgré tout la route vous surprend, accrochage ou collision, rassurez-vous, il y a Car Expert HM Lévis. Assistance accident 24 heures, Car Expert HM Lévis, avoisinant l'autoroute 20, sortie Lévis-Centreville. Le Monster Spectacular est de retour au Centre Vidéotron de Québec le samedi 30 mai. Le spectacle familial par excellence mettant en vedette Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Billets en vente sur Ticketmaster.ca.
Choix.
98.
1. Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture.
Qui n'est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation, à ce qu'on m'a dit.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben ça fait pas que brasser ici à Québec, là. Sa colline parlementaire. Ça brasse aussi sa colline parlementaire à Ottawa. Et pour en parler, Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur Paulus, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Quand même, ça brasse un budget fédéral hier, budget très austère. En même temps, on a mis de l'argent sur des gros postes de dépenses. Mais quand même, ça brasse chez les conservateurs. Le député Chris D'Entremont, qui vient de la Nouvelle-Écosse, lui a décidé qu'il traversait la Chambre. Comment on voit ça à l'interne?
Ben OK, ben premier point, quand vous dites budget austère, pas vraiment, parce qu'austère, ça veut dire qu'il n'y aurait pas trop de dépenses. Là, c'est le contraire. On a un déficit catastrophique sur les 18 milliards. Ça, c'est à discuter. Pour la question de mon collègue, mon ex-collègue d'Entremont, écoute, c'est une décision qui appartient. Je pense que c'est plus basé sur des vieilles histoires. M. D'Entremont a déjà été vice-président de la Chambre des communes.
OK.
Voulait redevenir le vice-président de la Chambre des communes après l'élection. Ne voulait pas qu'il y ait de vote. Blablabla. Bla, bla. Fait que finalement, c'est pas lui qui a été choisi. Il a resté amer, frustré de ça. Fait que c'est très, très, honnêtement, des histoires de ce genre-là.
Mais puis, lui, c'est un bleu-rouge, là, hein, je pense. Là,
c'est... Bon, écoutez, c'est un conservateur. Là. C'est juste qu'il y a. Il y avait, honnêtement, là, c'est vraiment plus basé sur, je pense, une frustration de ne pas avoir eu le support de ses collègues pour l'élire comme vice-président de la Chambre.
Mais là, y en a-tu d'autres qui pourraient partir? Des rumeurs là, que Dominique Vien pourrait partir.
Non, ça, c'est pas vrai.
Serge Godin, c'est pas vrai, ça. C'est...
Ben non. Puis regardez, je vous invite à regarder le Facebook de Mme Vien. Elle a fait un vidéo tantôt qu'elle a posté.
Mais ça brasse, là. Il se passe de quoi?
Ben, c'est normal que ça brasse. On est en période aussi d'un gouvernement minoritaire. On a un budget qui vient d'être déposé, des rumeurs d'élection si le budget passe pas. Fait que c'est sûr que ça crée une tension. C'est normal. À chaque fois qu'il arrive des situations de même, il y a des tensions qui se créent.
Ben oui.
Mais il reste que l'important, c'est de respirer par le nez. puis de garder son sang-froid.
Est-ce qu'on va avoir une élection prochainement? Vous, allez-vous voter pour ce budget-là?
Ben, actuellement, non. Puis on était clair hier, hein, quand on a vu le budget. Moi, j'étais au lock-up hier matin, ça allait au huis clos. J'ai pu voir d'avance aussi ce qui se passait avec tout ça. Puis on a dit, OK, ça marche pas. Là. On a vraiment... Ce sont des 18 milliards de déficit. T'as des dépenses... C'est plus que le double de ce que Trudeau avait annoncé l'année passée. Puis si on regarde les promesses électorales, la plateforme des libéraux que M. Cornet avait présentée, on est 13-14 milliards de plus, même que ce qu'il y avait prévu, en déficit. Puis quand tu regardes ça... Il n'y a rien dans ces mesures-là pour aider le monde. Nous, notre priorité actuellement à Ottawa, au niveau du Parti conservateur, c'est ça coûte cher. La vie coûte cher. Coût de la vie, coût de la nourriture, les logements. Puis il n'y a rien dans le budget qui va aider la population. Donc, on a demandé, nous autres, à plusieurs reprises, des mesures pour enlever des coûts indirects. Il y a des espèces de taxes indirectes qui font en sorte que le coût des aliments est plus cher. Exemple, les plastiques, mettons. Il y a des coûts,
il y a des documents qui sont sortis récemment là-dessus, là.
Ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis on se fait rire de nous par les libéraux, mais on a raison. Puis docteur Sylvain Charlebois, par exemple, il en parle. Oui, il y a plusieurs personnes qui parlent de ça. Oui. Que c'est vrai qu'il y a des possibilités. On pourrait trouver des moyens. Le gouvernement pourrait enlever les différentes taxes indirectes qui font en sorte que le coût des aliments pourrait baisser. Puis ils veulent rien savoir de ça. Fait que nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on est contre ce budget-là parce qu'il fait pas de sens. Mais on va proposer là, dans cette semaine, il va y avoir deux amendements qui vont être votés. Un jeudi, puis un vendredi. Des amendements. Nous, vendredi, c'est notre amendement qui va être des propositions d'amélioration de ce budget-là. Fait que le gouvernement a le choix. S'il vote pour accepter notre amendement, là, on amènerait une façon plus acceptable de voter pour. Mais on ne s'attend pas qu'ils vont vouloir, parce qu'à date, ils n'ont pas passé le signal qu'ils voulaient collaborer. Ils veulent collaborer avec personne, finalement. Les libéraux sont vraiment là. Ils font leur tête, ils s'en vont, ils prennent l'argent. Puis en passant, des budgets déficitaires, il faut comprendre que c'est tout de l'argent emprunté. Puis qui paye ça? C'est nous autres.
Oh oui,
L'intérêt de cet argent-là, les
frais de la dette à 25 milliards en 2015.
Ben,
on est rendu à 55 milliards et dans trois ans, on va être à 71 milliards. En partant, là, quand tu fais ton budget, tu as 71 milliards qui partent pour payer les frais de la dette.
Puis quand on parle d'investissement, là, les libéraux ont été forts à dire ça depuis une couple de semaines, qui font des investissements générationnels. Là. Mais c'est nous, ce qu'on dit, c'est parce que c'est une dette intergénérationnelle. C'est parce que là, la dette qui est déjà astronomique, fait juste s'augmenter à chaque année. Là, il est rendu à 50-60 milliards d'intérêts qu'il faut payer à chaque année. Ça, c'est avec nos impôts. Puis même, je l'ai déjà dit en ondes à votre émission, puis je leur ai dit, les calculs sont réels. Toute la TPS que tout le monde paye sur n'importe quelle facture, là, à chaque fois que vous payez la TPS, cet argent-là, ça sert juste à payer l'intérêt aux banques qui ont prêté l'argent au gouvernement du Canada.
On est loin de s'en sortir.
Là.
Non, tout à l'heure, j'ai parlé d'austérité. C'est parce qu'à Québec, M. Girard vient de sortir, puis lui, il est très déçu. Là. Lui, il n'y a pas d'argent pour eux autres. Là. Il n'y a pas d'argent pour les provinces.
Bien là, c'est ça. Fait que là, on a un budget astronomiquement déficitaire, mais il n'y a pas... toutes les zones d'ombre, c'est ça. Là. Les provinces, les transferts en santé, les différents besoins qu'on a sont pas couverts. Là, on a des grands investissements annoncés, bien, OK, en défense, oui, on en a besoin, mais là, c'est parce que là, ils sont en train d'investir dans des grandes entreprises, mais on voit pas là, l'avantage là, à court terme pour le citoyen, et surtout qui n'ont pas été chercher de ressources, ils n'ont pas coupé nulle part. T'sais, on dit qu'ils vont couper des fonctionnaires au fédéral. Parce qu'il y a une augmentation.
On parle de départ à la retraite, là, ça va se faire par attrition.
C'est ça, fait que de l'attrition. Fait que ça va se faire tranquillement quand les gens prennent leur retraite. Il n'y a personne qui va se remettre dehors demain matin. Donc, après ça, tu vas chercher de l'argent où? Là. C'est ça qui ne fonctionne pas avec ce budget-là. Donc, on a honnêtement, les gens ont fait plusieurs qui ont voté Carney. On dit, hey, ce gars-là, il connaît la finance. Il dépense deux fois plus que Justin Trudeau.
Ouais. Mais est-ce que le Canada n'est pas piégé? Là? Il y a des tarifs. On doit respecter les budgets de l'OTAN, 2% du budget de l'OTAN. Là, donc, on doit monter l'investissement dans les forces armées. D'ailleurs, les 10 dernières années dans les forces armées, Justin Trudeau a négligé ça beaucoup. Là.
Absolument. Mais c'est là qu'il y a des décisions. Quand on dit qu'il y a vraiment des décisions difficiles à prendre, c'est là. Quand tu arrives, tu dis, OK, on fait face à des problèmes au niveau des militaires, au niveau de la frontière. Ça prend beaucoup d'argent, il faut le faire. De l'autre côté, il faut que tu te retournes en disant à quel endroit je peux récupérer de l'argent pour payer ça. Et c'est là qu'il n'y a personne qui ose aller de dire, ben, finalement, les programmes de transfert, des soins dentaires, est-ce qu'on arrête ça, on ralentit?
Ils touchent à rien de ça, là.
Ben non. Fait que c'est ça, ils font une belle page en disant tout va rester. OK, parfait, tout reste. Mais là, de l'autre bord, après ça, tu dis on va investir massivement. Mais c'est parce que tu empruntes de l'argent, dans le fond. T'as pas créé une source de revenus quelque part, là.
Ouais, puis 78 milliards là, de déficit, là, ça, c'est budgété. Ça pourrait être plus que ça, là. Moi, je pense que ça va peut-être être 90 puis 95 milliards, on le sait pas, là.
C'est très possible parce qu'effectivement, c'est le budget. Puis chaque année, ils ont souvent dépassé les prévisions budgétaires. Donc, ça peut être pire que ça parce que si l'économie ne s'améliore pas, ce qui se passe avec les Américains, n'oublions pas que M. Carney est premier ministre depuis plus de 7 mois. Puis il n'y a absolument rien réglé avec Donald Trump. Il y a des tarifs qui ont été doublés, triplés, puis absolument rien qui a été réglé. Donc, on est vraiment dans une mauvaise position. On dépense l'argent, encore une fois, emprunté. Honnêtement, là, on ne peut pas supporter ça, c'est bien sûr.
Pour le tramway de Québec, moi, j'ai rien vu là, hier. Là. Puis là, on a eu quand même une campagne ici à Québec où on s'est fait dire c'est réglé, c'est canné, l'argent est là. Moi, je vois pas de l'argent nouveau, là. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le tramway de Québec dans ce que vous avez vu?
Je ne l'ai pas vu. Là, il faut regarder un budget. Vous savez, c'est une grande brique, puis il n'y a pas tous les détails. Mais pour le tramway de Québec, il y a un budget qui devait être débloqué en 2026 au niveau fédéral de 3 milliards pour le Canada au complet, okay, pour tous les projets canadiens de transport collectif. Donc, dans ce 3 milliards-là, est-ce qu'il y a une part de réservée pour Québec? Si on ne l'a pas vu, on ne sait pas.
Okay.
Fait qu'actuellement, il n'y a peut-être rien de planifié pour Québec.
Moi, j'avais 1,9 milliard à date de promis, mais si on débloque 300 millions, il manque encore 1,5 ou 2 milliards là, du fédéral?
C'est ça, exact.
Les seuls montants
dans le dossier du tramway de Québec, c'est les montants initiaux. Quand le tramway devait coûter 3,3 milliards, il y avait 40 % de ça qui avait été promis à l'époque. Puis après ça, il n'y a jamais rien eu d'autre là, qui a été débloqué. Puis il n'y avait plus de programme, il n'y avait plus d'argent nulle part. Là, le nouveau programme, je dis, il est supposé avoir un 3 milliards pour le pays au complet. Fait qu'il y a un petit morceau là-dedans. Après ça, ça va aller quand? On ne sait pas.
Ouais, c'est
loin d'être garanti pour le financement fédéral.
Voilà. Puis on dit qu'à Québec, le port de Québec pourrait devenir un port de conteneurs. Ça, c'était attendu?
Ça, c'est un beau projet qu'on est absolument d'accord avec QSL. C'est un beau projet du port de Québec. On est d'accord avec ça.
Ouais.
Le côté fédéral, c'est d'approuver, avoir des agents des services frontaliers pour contrôler l'aspect des douanes. Puis après ça, let's go. Nous, les conservateurs, on est absolument d'accord avec ça.
Donc, ça va être bon pour l'économie de Québec, ça?
Absolument.
Pierre Paulus, député de Charlebourg, conservateur, ben on vous laisse aller. Là, je sais que c'est une série d'entrevues, puis on va suivre M. D'Entremont qui part, s'il y en a d'autres. En tout cas, on ne souhaite pas ça, mais ça peut bouger rapidement.
Mais la rumeur, mes collègues du Québec peuvent arrêter ça. Là. J'étais avec eux en plus encore ce matin, M. Godin, Mme Vigne, puis tout le monde sont heureux d'être dans le caucus conservateur.
Bon, ben parfait. Merci beaucoup.
OK, bye-bye. Merci.
Bonne journée. Voilà. Pierre Paulus nous dit que les rumeurs, comme il y aurait des Québécois du Parti conservateur, député du Québec qui partirait pour les libéraux, là, ça serait de la foutaise. À suivre.
Mais on n'était pas dans le champ sur l'enveloppe, là.
Non, c'est à peu près ça.
On était pas mal target.
À date, là, il y a 1,9 milliard qui a été promis pour le tramway de Québec.
Ben, c'est dans l'enveloppe de 3 milliards par année. Ben, ça veut dire que si c'est pour l'ensemble du Canada, il va manquer de l'argent tantôt.
Ben, c'est sûr qu'il va manquer d'argent. Ils pourront pas mettre des milliards à Québec sur un projet puis pas laisser d'argent ailleurs, là. Il y a Gatineau qui a un projet de tramway. Il y a la ville de Montréal, ils ont des lignes de métro.
Les autres,
ils empilent puis empilent les projets. Là. À Toronto, il y a Vancouver, il y a plein de villes.
Voir si dans l'histoire, Pierre, Montréal a déjà passé avant Québec. Voyons donc.
Alors, c'est ça que je te dis.
Puis il y a un troisième lien, on va prendre l'argent là aussi.
Ben, le troisième lien, le fédéral, à la date, n'a pas promis une scène là-dedans.
Bon. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, ouais. Mais c'est ça. T'as raison, l'argent est où?
Voilà. Après la pause, on ouvre les lignes.
88-670-9098.
On pourrait faire du millage sur le budget fédéral.
Oui. Ben, c'est vos réactions, de un.
Êtes-vous satisfait de ce budget-là? Est-ce que vous êtes
confiant?
Déçu? Tu vois, Éric Girard, lui, est déçu.
Ouais.
Il dit, j'ai pas d'argent, je suis obligé de couper partout. Moi, il y a comme une équation, là, il va avoir...
Un entonnoir.
Et c'est sûr que là, s'il manque d'argent... C'est pour ça que je parlais d'austérité, là. C'est parce que pour les provinces, il n'y a pas grand argent, là.
Non.
C'est très austère pour elle. C'est des programmes fédéraux, l'armée notamment, puis on met beaucoup d'argent sur d'autres programmes pour notamment les corridors commerciaux. Donc,
êtes-vous confiant? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous satisfait? Insatisfait?
Êtes-vous heureux?
Oui, c'est ça.
Hein? Voilà, on revient après la pause.
Couture.
Restez là, on revient dans un instant.
Dans le mythe, Radio X, le show du matin.
Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6 h.
Radio.
X.
Présenté par Silencieux Proto.
Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto, à Québec et Lévis.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël. Jusqu'au 6 janvier, obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une vaste sélection d'articles pour toute la famille. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
Les viandes Pépé Alley, c'est bien plus qu'une boucherie. C'est une équipe de passionnés qui vous conseille et vous offre viande, volaille, poisson et fruits de mer de la meilleure qualité au meilleur prix depuis 50 ans. Les viandes Pépé Alley, une histoire de succès. Viandealley.com.
Solde d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50 % pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50 % de rabais dans tous les matelas Dauphin.
Ce samedi 3 janvier, 16h, c'est le match en blanc au Rempart de Québec. Notre équipe sera vêtue de blanc pour la seule et unique fois cette saison au Centre Vidéotron et c'est gratuit pour les enfants grâce à CGI. Ce samedi, tout le monde en blanc. Réservé au rempart.ca.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Notre invité, il est là.
Oui.
Docteur Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Content de vous voir. Un urgentologue, enfin, j'en vois un. Parce que vous êtes tout le temps, vous travaillez tout le temps.
On travaille beaucoup, effectivement, mais pas juste les urgentologues, tous les médecins de famille travaillent beaucoup.
Là, il faut le dire, hein, l'Association des médecins omnis, c'est un syndicat. Hein,
c'est une partie régionale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
C'est ça, exactement. Donc, vous êtes un genre de...
On représente les médecins de famille de la région, effectivement.
Comment ça va? Comment ça va? Le moral des troupes est comment, là, aujourd'hui?
Non, c'est pas bon. Les médecins sont exténués parce qu'ils travaillent beaucoup, sont frustrés parce que le ministre n'arrête pas de compter des mensonges à la population. Puis, on a eu même un vote de 91 % des médecins de famille d'aller en moyenne pression, y compris l'enseignement aux résidents cette semaine. Donc, les médecins, presque unanimement, 91 % nous disent « c'est assez, il faut faire quelque chose pour que ça change ».
Là, j'ai vu même des médecins qui disent « on sac notre candidat ».
Mais en fait, c'est un peu... Je suis content de pouvoir venir vous voir pour vous parler de ça, parce que nous, on a fait un sondage dans la région de la Capitale-Nationale auprès de l'ensemble des médecins de famille de notre association, puis on leur a dit « si le projet de loi 106 passe, qu'est-ce que vous faites? »
Tel quel, là. Tel que
exact.
Sans négo, sans amendement.
Comme il a été présenté, là, effectivement. Puis, on a été surpris parce que les jeunes médecins qui nous ont répondu se sont dit soit que je m'en vais dans une autre province, soit que je vais au privé.
Mais ils peuvent pas aller au privé,
soit que
là.
Je quitte la première ligne, effectivement.
Parce que là, la nouvelle loi qui a passé...
Le PL 83 qui a passé interdit les médecins de famille d'aller au privé sans l'accord de Santé Québec.
Pendant combien d'années?
Pour les médecins de famille, c'est vrai pour tout le monde. Même ceux en pratique, il y a eu les 15 dernières demandes qui ont été envoyées en Santé Québec par des médecins de partout dans la province d'aller au privé ont été refusées.
Non, mais ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, on est fait à Cuba?
Ben, ça ressemble à ça. Ou en Corée du Nord, un des deux. Mais on est vraiment pas dans un pays démocratique.
Non, non, écoute, ça, c'est épouvantable.
OK, puis il n'y a pas de temps, dans le fond. C'est que c'est...
Ça prend l'accord de Santé Québec, puis eux se justifient dans la loi en disant que tant qu'il y a un manque d'effectifs dans le public, on ne permettra pas à personne d'aller au privé.
Mais pourquoi on n'ouvre pas les cohortes à l'université? Pourquoi on n'en met pas plus?
S'il y a un point que la CAQ a bien fait dans les dernières années, c'est qu'ils ont augmenté le nombre d'étudiants en médecine.
OK.
On est passé à près de 1000 par année. C'est sûr qu'en médecine, une admission de cette année, on va voir l'effet dans 7 à 10 ans. On le voit pas tout de suite. Là.
C'est quoi le temps d'études pour un médecin? Parce que souvent,
un médecin de famille, c'est 7 ans d'université.
Donc, c'est 3 ans, c'est le bac plus la maîtrise?
En fait, c'est un doctorat de premier cycle qui dure 5 ans.
Okay.
Ça inclut le préclinique où on est sur les bancs d'école. Ça inclut 2 années où on est à l'hôpital.
En résidence?
À faire des stages, non, comme externe.
OK, externe. Et après
Puis
ça?
Et après ça, il y a la résidence de 2 ans. Qui plusieurs prolongent d'une année supplémentaire, comme moi, j'ai été obligé de faire une année supplémentaire pour faire de l'urgence dans un centre universitaire à Québec. Donc, moi, ça m'a pris 8 ans ma formation de médecine familiale.
Le gouvernement du Québec dit on veut lier votre salaire à votre performance. Lui, il dit il y a des médecins dans le réseau qui sont sous-performants et qui ne travaillent pas le soir, les fins de semaine. Vous répondez quoi à ça?
En fait, la performance, c'est pas juste les heures d'ouverture. Là. La performance, c'est combien de patients je peux voir. Mais ce que le gouvernement prend pas en compte, puis ce qu'il faut que la population sache, là, c'est que depuis des années, dans le contexte où on manque entre 1500 et 2000 médecins de famille au Québec, les médecins de famille ont déjà envoyé les cas plus faciles vers d'autres professionnels. On travaille en équipe dans des groupes de médecine familiale, puis un médecin, avant, devait faire un suivi d'hypertension 4 fois par année. Maintenant, il voit son patient une fois par année, puis les 3 autres fois, c'est une infirmière clinicienne qui, avec des ordonnances collectives, ajuste la médication.
Donc, on a déjà enlevé les rendez-vous qui étaient faciles, qui prenaient moins de temps. Okay. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en 10 minutes dans le temps, ça. Donc, maintenant, la majorité, là, puis il va y avoir probablement des gens qui vont vous texter, c'est pas vrai pour leur médecin, là, mais la majorité des médecins offrent des rendez-vous entre 20 et 30 minutes. Ce qui fait que le volume qui nous est demandé dans PL 106, de dire on va voir, faut voir 18 millions de rendez-vous par année, bien, si on le fait, il va falloir qu'on diminue le nombre, la durée des rendez-vous. Puis là, on peut attaquer la qualité des soins quand on fait ça. Puis le Collège des médecins nous le dit, la qualité des soins, c'est ce qui est le plus important pour la population. Le ministre nous dit non, moi, je veux que vous envoyiez 18 millions par année. Donc, les médecins travaillent déjà, là, selon l'étude que le ministre lui-même a demandé, 46 heures en moyenne par année. En plus de leur formation médicale.
46 continue. Heures, donc c'est pas 35 heures semaine.
C'est pas 35 heures semaine, non. On est déjà là,
à 46 heures.
De plus la majorité des gens qui travaillent.
Le soir, fin de semaine, ça semblait être problématique. Le reconnaissez-vous, ça, que vos membres ne travaillent pas?
Tous les GMF ont dans leur contrat des obligations d'être ouverts le soir.
OK.
Puis, les fins de semaine sont ouverts de 8 h à 16 h ou 8 h à midi, selon le niveau de patients inscrits.
Mais ça, on le voit pas. Mais moi, j'ai toujours eu des... Moi, j'étais à la clinique Saint-Louis, là.
Oui.
Qui roule pas mal.
Oui.
Et tu sais, on m'offre toujours du lundi au vendredi. Là. J'ai pas d'offre de soir ni de fin de semaine.
Dans les 100 rendez-vous, ils sont ouverts tout le temps. Là.
Okay.
Ils le font bien. Puis il y a le GAP que vous avez probablement déjà entendu parler, parler même. Le guichet d'accès, les médecins offrent des rendez-vous là, à la population qui n'ont pas de médecin de famille. Puis dans la région de la Capitale-Nationale, c'est 150 000 rendez-vous qui s'offrent à cette population-là par année. Okay. Donc de dire que des patients n'ont pas accès. C'est pas vrai, parce que tout le monde va avoir un accès, puis à la limite, ça sera l'urgence où, dans toute la province, 85 % des médecins qui travaillent dans une salle d'urgence, c'est des médecins de famille.
Là, dans GMF, là, ce qu'on me dit, le bordel est pogné, parce que t'as des médecins qui sont à la retraite, à l'âge de la retraite, mais qui font peut-être 25 heures semaine, 30 heures semaine, peut-être 40 heures semaine. Là, en amenant là, cette règle-là de 25 % là, de rémunération, puis là, on l'a descendu à 15, là, c'est en train de foutre le bordel.
Oui, puis encore une fois, là, je vois les capacités de manipulation du ministre, là, parce que déjà, au mois de juin, il disait que c'était 15 %. Puis quand on lit la formule, c'est 15 %. Puis là, il nous dit comme si c'était une grande concession qu'il vient de faire.
Ouais.
Mais c'était déjà 15 % là, quand il nous le disait au mois de juin. Là, donc,
là oui, les négos, là.
Oui, juste pour répondre à cette question-là, parce que je la trouve super pertinente, oui, il y a un problème avec une pénalité collective sur la rémunération des médecins. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en fin de carrière, qui offrent 3 jours semaine.
Les autres, ils triplent. C'est des gens qui, c'est dans leur ADN.
Exact. Puis il y a un des médecins de la région de la Capitale-Nationale qui est passé en entrevue à TVA. Il a 70 ans. Il travaille encore là, pour ses patients. Puis il expliquait, là, mes patients, moi, sont rendus en marchette. Mes patients sont rendus âgés. Donc, c'est pas vrai que je suis capable de les voir en moins de 30 minutes. Puis, effectivement, lui, il dit, moi, si PL 106 arrive, je prends ma retraite. Mais s'il prend sa retraite...
Mais dans le GMF, ça va mal aller, là.
Ben oui, ça va mal aller. Puis c'est pas juste nécessairement dans le GMF. On sait même pas comment que le ministre veut appliquer ça. C'est-tu dans une région? C'est-tu dans l'ensemble de la province? Le 18 millions qu'il nous dit pour l'atteinte des cibles, c'est provincial. Donc, si on n'est pas capable dans la province de le faire, ben l'ensemble des médecins vont être pénalisés de ça. Puis pour l'urgence, le domaine que je connais bien, c'est où je travaille, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il faut que 80 % des patients qui viennent à l'urgence soient vus en moins de 90 minutes.
C'est pas réaliste.
Puis on n'a pas le contrôle non plus sur le débit. Là. Les gens viennent, les portes sont ouvertes, les gens arrivent. Puis est-ce que ça pourrait, à la limite, puis je pense pas que les médecins vont avoir l'éthique de faire ça, mais peut-être que pour atteindre les cibles du ministre, je vais voir un patient qui a une écharpe dans le doigt avant celui qui a une douleur à la poitrine. Parce que je veux que tout le monde soit...
Vous y allez par triage, habituellement?
Il y a un triage, c'est même pas nous qui le font. C'est des infirmières qui nous disent tel patient est de voir de façon prioritaire selon les échelles nationales qui existent. Donc, juste ce genre de mesures-là qui seraient liées à notre rémunération est vraiment quelque chose de compliqué.
Ben, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur la messagerie parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Bon, quand je réussis à avoir un rendez-vous parce que j'ai pas de médecin de famille, je réussis à avoir un rendez-vous via le GAP, par exemple, ben, le médecin me dit « Ouais, mais là, on traitera pas tous tes problèmes, tu vas en choisir un puis on va traiter celui-là. » Les gens s'inquiètent avec les nouveaux objectifs qu'ils vous demandent. J'imagine que ça va arriver encore plus.
Ça va être
plus.
Ça tout le temps.
Il y a des codes de couleur, hein?
Exact. Le patient, en fait, puis c'est même dans les dernières ententes, dans les dernières propositions qu'ils ont fait, là, le gouvernement, en fait, les patients vont être étiquetés, là, à risque, vulnérable, non vulnérable. Puis, selon ton niveau, tu pourrais ne pas avoir accès à une prise en charge individuelle. Mais c'est ridicule parce que ça va être un fonctionnaire qui va décider votre niveau. Le médecin n'aura pas le temps de décider votre niveau là, avant de vous avoir vu. Puis, on est vert là, dans l'étiquette de couleur jusqu'à ce qu'on soit malade. Puis la prévention est une part de la médecine familiale qu'on doit faire. Puis si on ne fait pas de prévention...
Ce que vous faites, là, ouais.
Ce qu'on fait, ça va juste nous coûter plus cher en soins de santé plus tard. On ne détectera pas des cancers de façon précoce. On ne détectera pas plein de choses importantes. Des diabètes, on va s'en rendre compte quand les organes vont être atteints puis le patient va être, avoir des malaises qui vont être beaucoup plus importants.
Le ministre Dubé dit « Revenez à la table. Revenez à la table, venez négocier. »
On n'est jamais parti de la table.
Bon.
Notre négociateur en chef nous a énuméré les 14 rencontres qu'il y a eu dans l'été. Peut-être que le ministre, lui, est en vacances, il ne s'en est pas rendu compte. Mais il n'y a jamais eu de retrait de la Fédération de la table.
OK. Là, c'est quoi la suite? On s'en va-tu en arbitraire? Ils veulent aller en médiation.
Écoutez, nous, là, ce qu'on demande, parce qu'il y a une impasse, là, on est vraiment très, très loin là-dedans, puis on demande l'arbitrage. C'est sûr que...
Lui, il veut pas aller là, là.
Il l'a dit hier. Oui. C'est une des rares erreurs qu'il fait, là. Il a dit, si je vais en arbitrage, ça va coûter trop cher aux Québécois. Ça veut dire qu'il sait qu'on n'est pas les plus payés au Canada.
Il dit que vous êtes les plus payés.
Il dit qu'on est le plus payé, mais en même temps, si c'était vrai, mais qu'il y a un arbitrage...
C'est quoi le salaire moyen? C'est quoi le salaire moyen d'un
330 000 l'année dernière.
Omni.
OK. Ouais,
ça, c'est médecin de famille, là.
C'est l'ensemble de tous les médecins de famille. Okay. Celui en CLSC, celui à l'urgence, celui en hospitalisation, celui en CHSLD.
Mais c'est pas un spécialiste, là. C'est pas...
En fait, les médecins de famille, c'est une spécialité au Collège des médecins. C'est des spécialistes en médecine de famille.
Généraliste, là, si on veut.
C'est ça. Omnipraticien, généraliste, médecin de famille, c'est la même chose. Okay. Mais on a une pratique qui est très, très polyvalente. Puis ce que le ministre ne comprend pas quand il nous compare à d'autres provinces, c'est qu'ici, là, juste dans la région de la capitale nationale, OK, on a 30 % des médecins qui ne travaillent qu'en deuxième ligne, comme moi. Je fais seulement de la salle d'urgence. J'ai des collègues qui font seulement de l'hospitalisation.
Urgentologue.
Bien, médecin de famille pratiquant l'urgence. Je ne veux pas me faire poursuivre par le Collège des médecins pour m'être appelé urgentologue. Okay. Après ça, il y a 46 % des médecins qui font juste de la première ligne.
Okay.
Puis, il y en a un pourcentage qui fait les deux. Donc là, si on a des quotas, il y a peut-être des médecins qui sont en deuxième ligne et en première ligne qui vont dire, bon, mais je vais m'en aller faire seulement de la première ligne pour atteindre les quotas puis pas être coupé. Mais là, est-ce qu'il va arriver dans les CHSLD où c'est des médecins de famille qui sont là aussi? Est-ce qu'il va arriver dans nos salles d'urgence, à l'hospitalisation? Donc, c'est important que... Puis le ministre, lui, il compare aussi avec d'autres provinces. Ici, quand 35 % de nos médecins font de la deuxième ligne, ailleurs dans le pays, c'est 15 %.
Donc, il y a un problème. Vous êtes, demain matin, Pascal Renault, il est ministre de la Santé. Il fait quoi?
En fait, il faut absolument que l'ensemble de la première ligne soit reconnu à sa juste valeur. Actuellement, les résidents ne veulent pas aller en médecine familiale parce que c'est une grande, grande charge de travail avec une rémunération qui est moins grande que partout ailleurs. Puis... Moi, c'est sûr que je mets l'accent sur la première ligne. La première ligne, c'est pas juste la médecine familiale. C'est toutes les autres professionnels qu'on a besoin pour travailler. Quand les médecins spécialistes disent « on aimerait ça opérer, mais les blocs opératoires sont fermés », nous, on aimerait ça être performants. Mais le gouvernement ne nous fournit pas les autres professionnels dans les GMF, malgré que par contrat, ils nous ont signé qu'ils seraient là.
Ouais.
Ils les fournissent pas. Il y a à peu près 25 % des professionnels qui sont non fournis.
Donc, il manque des outils, entre guillemets. Ouais,
Il manque des physiothérapeutes, il manque des psychologues, il manque des infirmières avec nous autres, là.
Bien, il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, bien, on pourrait pas ouvrir justement la première ligne, l'élargir en fait, parce qu'il manque beaucoup de médecins, il y a beaucoup de gens qui sont sans médecin de famille, c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Les pharmaciens, par exemple, les pharmacies pourraient faire une partie du travail.
Je pense qu'on va
déjà fait, oui, ce projet de loi-là a été accepté.
Les infirmières, les super infirmières.
On ne s'est pas opposé à ça, nous autres. On a besoin d'aide pour la première ligne. Il manque 1500, 2000 patients, je vous le répète. Tant qu'on n'est pas capable de prendre tout le monde dans le contexte actuel.
Médecins, 1200...
Médecins, oui, exactement. 200. Puis, en même temps, il y a eu 3500 nouveaux cadres en santé depuis que la CAQ est... depuis 2020. Donc, ces cadres-là, c'est généralement pas des médecins, mais c'est des infirmières, des immunothérapeutes.
Exact. Là, ça brasse avec le Collège des médecins. Il y a des médecins qui dénoncent le président de leur ordre de votre ordre professionnel. Voulez-vous débarquer le président du Collège des médecins? C'est quoi qui va se passer?
En fait, c'est pas les associations et les fédérations qui font ça. C'est un groupe de médecins de la base qui n'ont pas apprécié parce que le président du Collège des médecins...
Il a dit arrêtez vos moyens de pression, c'est ça qu'il a dit.
Il a dit que c'était illégal.
Ouais.
En théorie, qui peut dire qu'une action est illégale? C'est le syndic, c'est pas le président. Puis, le lendemain ou le lundi suivant, il a retourné une lettre en disant « Oups, on s'est mal, il y a eu de la confusion, on s'est mal compris. » Puis, il avait tronqué une partie du code de déontologie qui disait « Les moyens de pression concertés sont interdits lorsqu'ils donnent une pénalité pour le patient. » Donc, celui sur l'enseignement donne pas de pénalité aux patients, donne une pénalité aux étudiants. Puis, malheureusement, les médecins de famille ont très peu de moyens de pression possibles. Puis, actuellement... Bon, c'est personne ne l'a fait de gaieté de cœur de dire on coupe les cours.
Comment ça va finir? Parce que là, il va aller au baillon. S'il vous en va au baillon, là, ça va ruminer.
Ça va être l'enfer. Puis c'est une loi qui est anticonstitutionnelle. Il y a plusieurs articles dans le PL 106
qui sont anticonstitutionnels. L'histoire d'empêcher les médecins d'aller au privé, là, je veux dire, c'est...
Ouais, ça, c'est déjà passé, celle-là.
Oui, mais elle va être challenger en cours. Ben oui, ça va aller en cours.
Contester. Puis ils vont perdre. Mais ils vont perdre quand ils ne seront plus là. On voit les sondages. Ouais. La CAQ s'en va nulle part.
Là, ils font quoi? Ils font du capital politique, ça.
Ils essayent, mais je pense que ça ne marche même plus. Nous, là, quand on a des chiffres là, que 62 % de nos médecins de plus de 60 ans envisagent de prendre leur retraite si PL 106 arrive.
Ça va être le bordel.
Moi, j'ai alerté le Collège des médecins, j'ai pas eu de réponse. J'ai alerté les députés de la région, j'ai dit ça marche pas. À Québec, on a 30 % de nos médecins qui ont plus de 60 ans. Ils couvrent 34 % des inscriptions individuelles. J'ai dit, même si. Puis il y a 62 % qui me disent, ben moi, c'est ce que je vais faire, je vais m'en aller parce que je suis tanné de voir.
L'exode des jeunes aussi, ça, c'est.
L'exode des jeunes. Puis moi, je sais pas si vous avez vu dans les médias récemment, en Outaouais, c'est commencé. Là.
On recrute, hein.
Il y a plusieurs médecins qui sont partis en Ontario.
On dit que l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick font des yeux doux, là.
Ben oui. Il manque 22 000 médecins de famille dans la région, dans toute la province. Pas la province, le pays.
Okay.
Donc actuellement, tous les autres provinces nous regardent et disent, écoute, il y en a qui sont déjà formés, ils m'ont rien coûté, je vais aller les chercher. La majorité des médecins sont bilingues, la majorité des médecins peuvent changer de région.
Donc, Espérant que tout ça se règle. Hein? On va espérer, comment on dit, là, beaucoup d'amour.
Oui.
Docteur Pascal Renault de l'Association des médecins Omni, praticien du Québec. De Québec. Merci beaucoup de vos lumières, puis vous pouvez revenir n'importe quand.
Oui, mais invitez-moi, moi je vais être disponible, c'est sûr.
Excellent, merci. Après la pause, François Charon, on jase techno.
Couture dans le mid. Radio X, Ouellet, en direct.
Avec JC et Patricia. Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Ouellet en direct, présenté par l'entrepôt de la Renault.
Chez nous, vous allez en avoir plus pour votre argent. Si vous ne me croyez pas, ben passez nous voir au 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. L'entrepôt de la Renault.
Pas chaud, il fait frais, m'en va sortir ma chaufferette. Si jamais que les tuyaux pètent, oui, j'appelle Calinette. Il y a de la neige, c'est effrayant, ça sort plus par en avant. Le facteur peut plus passer, si l'été peut arriver. Les hivers sous zéro, ça me fait pas au dégât d'eau. Je vous dis que je guette Calinette, puis que je garde son numéro. Si jamais que les tuyaux pètent,
Maison Adam.
Profitez des prix imbattables du solde d'après-Noël chez Maison Adam. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une vaste sélection de téléviseurs, barres de son, haut-parleurs, amplificateurs, écouteurs et projecteurs. Maison Adam vous offre un service personnalisé en ligne, par téléphone et en magasin, avec la livraison gratuite et le meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Froid dehors? Parfait! Canuck maintenant ouvert à Québec. Économisez avec le Boxing Day jusqu'au 3 janvier. Jusqu'à 50 % de rabais sur items sélectionnés en magasin et en ligne. Avec Canuck, aimez l'hiver. 1066 rue Saint-Jean, canuck.com.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro 1 dans la Grande Région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que c'est ça.
Radio X.
Test d'alerte aujourd'hui à 13h55.
Ça va sonner.
Faites pas le saut, là. Dans les médias, tout, téléphone cellulaire, téléviseur, radio. Ici à Radio X, ça va sonner.
On va faire.
Comme la dernière fois. C'était au mois de mai 2025. Ça avait été un test. Et là, c'est pour tester les services d'urgence. S'il y avait une attaque importante, s'il y avait quelque chose, n'importe quel.
Alerte Amber, généralement.
Ouais, alerte Amber, mais plus que ça, là, je pense qu'on y va avec la grosse affaire. Là. Si on était attaqué, une menace externe, des ouragans, ça est déjà arrivé.
Oui, oui, tornades, des orages violents, on l'a déjà vu. Mais c'est les alertes Amber, généralement, je ne sais pas si on a adapté le système pour que ça soit plus... adapté au niveau de la localisation, parce que si t'as une alerte Amber à Montréal, t'es pas nécessairement obligé de sonner ici. Là,
ben, ils ont
ou, tu sais, je sais pas.
Oui, déjà. Mais en même temps, tu sais, alerte Amber à Montréal, L'enlèvement d'enfants? Le parent est rendu à Québec?
Oui,
tu as raison. Il y a ça aussi. Là. Ouais. Donc voilà, soyez pas surpris, 13h55, aujourd'hui, ça va sonner partout au Canada.
Partout.
Voilà, notre invité, il est là.
Oui.
Expert cybersécurité, Steve Waterhouse. Comment ça va, Steve?
Ça va bien, les gars, vous autres?
Ça va très bien. Hier, ça allait moins bien, par exemple. Cloudflare,
ben
hein?
Voyons donc.
Ben oui. Ben oui, mon site web, mon propre site web, cachemireplus.com, n'était pas accessible.
Ben oui, puis pourquoi il n'était pas accessible? Pourquoi tu as pris cette décision d'aller avec Cloudflare dans ton cas?
Ben parce qu'à date, Cloudflare m'a toujours bien servi. Là, tu me dis,
voilà.
Pour quelques minutes, parce que ça a été quelques minutes, là, dans mon cas,
oui.
Est-ce que je vais avoir un backup? Est-ce que je vais me payer un backup? Est-ce que ça vaut la peine de se payer un backup? Moi, je suis juste un petit entrepreneur, là, j'ai mes petites affaires. Mais là, si tu me parles d'une grosse compagnie qui a des services et tu dois répondre à des clients, à des centaines de clients aux minutes, c'est une autre paire de manches, j'imagine.
Ben, tu viens de décrire très bien, Pierre, que pour utiliser aller vers un service de cette nature-là, ben, faut décider est-ce que on peut se passer des services, est-ce que notre entreprise va subir des grosses pertes s'il y a une panne prolongée de quelques minutes à quelques heures, voire à quelques jours, par des attaques extérieures. Tu sais, c'est vraiment ça l'enjeu. Parce que les attaques extérieures, c'est la spécialité de protéger les sites web, là, que Cloudflare, il y a plusieurs autres services, quand même sur Internet. Et de cette manière-là, on s'attend qu'ils protègent vraiment là, pour que le site web réponde normalement et tout ce qui est cochonnerie, excusez de dire ça comme ça, soit retenu à l'extérieur. Maintenant, dans ce qui nous concerne pour hier, ben, c'est une situation à l'interne qui a créé cette perte de service-là. Et ce n'est pas une cyberattaque, ce n'est pas une intrusion de quoi que ce soit.
Exact.
Et c'est vraiment la cause que, comme on a vu le mois dernier d'ailleurs, que AWS a quand même, là aussi, mis en arrêt quand même une grosse portion d'Internet.
On dit 20%. Il y a 20% du web sur la planète était à l'arrêt.
Oui. Oui, tout à fait.
Quand même gros. Puis
ça, c'est des proportions conservatrices, là, je veux dire. Tout ça vient varier selon l'utilisation. Mais tu as raison pour dire, quand c'est des grandes entreprises, ça a un plus grand impact. Tu sais, mettons, une entreprise va avoir 1 million à minute, là, que s'il n'est pas en ligne, c'est perte. Bien, c'est certain que ça, c'est préoccupant pour cette organisation-là. Et ils doivent anticiper que si ça arrive encore, puis ça va arriver encore entre nous autres, là, qu'est-ce qu'il a le plan B? Autrement dit, est-ce que. Puis il faut que j'explique une autre affaire avant d'aller au plan B. Le mécanisme a fait sa job. Autrement dit, il est arrivé un problème de configuration dans une base de données à l'intérieur de chez Cloudflare il y a une intelligence artificielle qui est à travers de ça, qu'il a parti en vrille, et là, il a fallu qu'il arrête le système pour déduire si c'est une attaque réelle, humaine, c'est-à-dire ou automatisée. Et après ça, ils ont pris les moyens pour régler ça. Ça a duré peut-être 2h30, 3h maximum, globalement parlant. Mais c'est là que la complexité des systèmes est telle aujourd'hui qu'ils se doivent, oui, d'amener un peu d'intelligence artificielle à travers de ça, mais c'est pas à point. Et c'est là qu'on va en retrouver, quand je dis qu'on va en retrouver des autres scénarios comme ça, autrement dit, par la complexité des logiciels, des plateformes qui sont en jeu, ben oui, il va arriver une couple de fois que ça va tomber. Fait que là, dans l'évaluation du risque, avant de considérer le plan B, est-ce qu'on peut se permettre de juste attendre que la tempête passe, puis c'est vraiment ça, ou bien c'est important qu'on ait justement ce plan B-là et de trouver la meilleure façon de travailler.
Non, parce qu'il y a des gros montants possiblement en jeu. Là. Quand tu as du transactionnel, sur ton site 24 heures sur 24, ou à tout le moins à les heures de pointe, quand ça plante, ben là, tu perds des revenus, tu perds beaucoup de crédibilité. Je pense que ça doit faire partie de l'analyse de risque total. Là. C'est ça, il y a trop. Puis on regarde ça, hein, il y a trop peu d'entreprises qui en font de l'analyse de risque 360.
Non, c'est justement, Pierre, tu sais, c'est souvent les gens, ils vont par tâtonnement ou par conséquence d'un incident. Puis là, après ça, ils retournent à la table à dessin, ils disent, ouais, c'est vrai, on était vulnérable 1, 2, 3, 4 places. Faut améliorer ça. Mais c'est sain de faire cette révision-là sur une base régulière, voire annuelle, pour anticiper des problèmes comme ça. Puis anticiper et trouver le meilleur moyen. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour assurer notre pérennité puis assurer que le service soit toujours rendu. Les gens, par contre, je dois dire, sont quand même pas fous. Ils s'attendent qu'il y ait des dérangements. Les gens le vivent eux-mêmes. Mais en même temps, il faut que ça soit explicable aussi. Puis ce qui est le fun aussi dans cette situation-là, bien, Cloudflare, ils ont joué le jeu ouvert puis on a accès à beaucoup d'informations pour comprendre pourquoi. Et c'est ça qu'on s'attend des grandes compagnies comme ça.
Mais là, pour bien comprendre, Steve, Clown Flair, c'est un peu comme un agent de sécurité là, qui est comme engagé par plusieurs compagnies pour gérer le trafic. Lui, il dit, toi, tu passes, toi, tu passes pas. Toi, tu passes, ouais. Toi, tu passes pas. C'est un peu ça. Mais y a-t-il d'autres compagnies qui font ça? Je veux dire, là, si on dit que 20 % du web a été affecté, c'est parce que probablement d'autres entreprises font affaire avec un autre type de sécurité.
Oui, tout à fait. AWS, eux autres, ils ont...
Amazon Web Service,
ouais,
c'est ça.
Oui, merci. C'est à peu près 32 % du marché. Puis chez Microsoft Azure aussi, il y a une autre trentaine de pourcents, 20-quelques %. Et tu as Akamai, qui est un gros aussi agrégateur d'informations, qui en a des services pour protéger justement des attaques. Principalement ici, on parle de denis de service. Denis de service, c'est qu'un site web va être submergé de fausses requêtes. Puis, comme tu as dit, ça, c'est un écran protecteur qui va filtrer les bonnes requêtes de qu'est-ce qui est de la scrap qui provient n'importe où. Et quand je disais tantôt que c'était le mécanisme a bien fonctionné, c'est que c'est mieux d'avoir un système qui va garder les sites web fermés en cas de défaillance plutôt que, puis qu'on appelle ça dans le jargon technique, tu sais, un fail close, que ça aurait fait en sorte qu'il aurait dit, ben pour pas que personne perde l'accès au site web, on va les ouvrir au public, mais il n'y aura pas de protection. Moi, perso, j'aurais dit, parfait, j'aime mieux que tu me protèges, que tu laisses le site web à découvert puis potentiellement susceptible de se faire attaquer.
Mmh. Amazon Web Service sont tombés en panne récemment aussi. Hein? Fait que c'est pas fiable.
Oui,
un puis l'autre, là, c'est ça. Là. Un puis l'autre, c'est...
Oui.
Ça cote un pas mal sous l'autre aussi, là, les infrastructures.
Il y a une interdépendance, ça, c'est clair comme l'eau de roche. Là. Et dans le cas d'Amazon Web Services, encore là, ça a été un problème à l'interne pour passer de l'information entre les différents services qui a failli. Et on s'est rendu compte que, wow, ça t'a un peu... Là, pourquoi il y a autant d'applications qui sont rendues inaccessibles? Donc, des applications qui sont hébergées dans les faux nuagiques, le fameux nuage. Et dans ce cas-là, c'était démontré que, wow, t'as un peu... Pourtant, l'info nuagique, on nous l'a vendu, que c'est... résilient et que si ça marche pas une place, ça va s'en aller à l'autre. Mmh. Oups! Ouais. On a réussi à voir que non, c'est pas tout à fait ça qui marche. Et là, j'ai pas toujours pas entendu le fameux excuse ou le message pour dire « Ouais, on s'excuse, c'est supposé d'être comme ça, mais ce n'est pas ça. » Puis ils trouvent des façons pour reprendre un peu le pitch de vente, comme on dit. Mais c'est là qu'encore une fois, malgré tout ce qui a été implanté depuis une dizaine d'années, ça ne reflète pas ce qu'on s'est fait dire. Donc, comme consommateur, on serait là à demander une meilleure résilience qui soit implantée pour que ça soit à toute épreuve, là, disons ça comme ça.
Ouais. On change de sujet. V'là un mois à peu près, le ministre de la cybersécurité du numérique dit, moi, je veux plus de pouvoir. Moi, je veux être capable de rentrer dans, mettons, à SAC. On l'a vu, le scandale SACLIC et autres, là. Puis je veux être capable d'avoir des pouvoirs pour être capable de dire « faites attention à ça, plus que ça, là. » Non, ce projet-là, y allez pas. C'est dangereux pour, un, vos finances, puis deux, on ne sait pas trop à qui on fait affaire. Est-ce qu'on doit donner plus de pouvoir au ministre de la cybersécurité et du numérique, le ministère, le fameux ministère là, à Québec?
Oui, là-dessus, les gars, c'est l'idée primaire que le MCN a été créé il y a 3 ans.
Mais pourquoi il n'y a pas plus de pouvoir que ça?
Ah, ben là, ça, c'est une game politique, ouais. Juridique. Là. On va aller dans cette direction-là parce que c'était voulu de le faire une implantation quand même avec une pente douce, disons, et non pas que ça soit radicalement imposé. Et c'est là qu'on en est rendu. Fait que oui, c'est une bonne idée que le ministre du MCN ait cette capacité-là de mettre un arrêt ou pas sur des projets
et d'émettre des avertissements. Là, on émet des documents.
Ben, ils émettent présentement, c'est ils ont ce pouvoir-là.
Mais oui. Personne ne lit ça, là, dans mesure où tu as vu la gang de la SAC, là, ça clique, là. Eux autres, il y avait leur propre...
Non, ils ont lu.
Oui, mais
ils ont lu,
mais ils ont
autrement.
Ils ont ignoré. Tu
ouais,
comprends?
Exactement.
Puis là, ils sont plantés. Là, ils ont de la cave. Mais s'ils avaient écouté, ben ils n'auraient peut-être pas dû agir de la même façon.
Ben c'est ça. Fait hein? Que, le MCN, il a fait sa job. Il a émis les avertissements, puis il dit faites pas ça, vous allez vous planter. Mais ils ont décidé politiquement, il fallait qu'il continue, puis qu'il regarde pas ailleurs.
Donc, à l'intérieur même du gouvernement, tu as des luttes internes entre des gens de cybersécurité puis du numérique. Non, ça, c'est nous autres, c'est notre juridiction, hein, parce que la SAC, c'est comme une société d'État dans l'État. Hydro-Québec, c'est la même affaire. Tu as du monde dans la cybersécurité ou numérique qui disent non, c'est pas toi qu'on est rejoint dans mes plates-bandes. Donc, on faudrait leur donner une espèce de supra-pouvoir, une espèce de pouvoir au niveau de tout le gouvernement?
Oui, et c'est là que l'idée d'avoir peut-être que ça soit une agence complètement à part, tu sais, ça a été ça a flotté ça là, ouais. Par, me semble que c'est Mme Sitlakoui là qui a proposé ça, puis ça fait pas d'hier que l'idée réémerge pour avoir un peu comme une indépendance complètement politique. Un peu comme la CAI, la Commission d'accès à l'information, et que tout ce qui est cybersécurité, ben ça soit une entité indépendante nommée par l'Assemblée nationale, puis que là, il va avoir tous les pouvoirs et toutes les raisons de travailler envers tous les ministères et organismes que le gouvernement du Québec s'occupe.
Ouais.
Fait que oui, ça aurait plus de portée, parce qu'actuellement, t'as raison, il y a un débat politique et sur ah, ben là, toi, t'es un ministère de, moi, je suis l'agence de, t'as pas d'affaires à me dire quoi faire. Il y a ça, il y a combat est toujours présent. Puis c'était le même avant quand c'était avec le Conseil du Trésor.
Ouais.
Fait que donc, il y a, pour faire comprendre de gros bon sens à dire, hey, il faut que t'appliques, je te donne un exemple réel, là, quand il vient le temps d'appliquer les meilleures recommandations sur les meilleures postures de cybersécurité, ils sont rendus à 20 cucs, là. Même toutes les gens à l'intérieur, malgré qu'il y avait une demande de laisser savoir ce que vous en êtes rendu, avez-vous fait l'implantation de ces fameuses mesures-là, etc. Puis ça, encore là, c'est les gestions de mots de passe, le deuxième facteur d'authentification, des affaires élémentaires,
oui,
hein, vraiment.
Oui.
Et que chacun des organismes ministères, ben, il dit non, on n'a pas eu le temps parce que ça, ça, ça. Il trouvait toutes sortes de raisons pour ne pas être conforme, mais que s'il adhère à ces principes de base-là, qui étaient avec tous les spécialistes autour de la table qui ont dit oui, c'est ça qu'il nous faut, ben il réduirait le risque qu'il arrive un incident de cybersécurité. Fait que depuis que ça a été dicté, ça me semble de mémoire, il y a 5-6 ans, il y a eu des incidents. Puis ça a été démontré à plusieurs reprises que s'ils les auraient implantés, ils auraient évité l'incident qui se produise.
Mais c'est ça. On aurait dû y aller avec un ministère très fort dès le départ, je pense. Parce qu'on voit les montants d'argent là, et les scandales. Il y en a d'autres. Là. À Santé, il y a un scandale qui se prépare là, pour une affaire de ressources humaines qui devait coûter au départ quoi 40 millions, 50 millions. On est rendu à 700 millions, puis on s'en va vers le milliard. Là. Si on avait écouté d'abord là, les gens du ministère, peut-être qu'on aurait fait les choses autrement. Écoute, autre sujet, on voit monter l'informatique quantique. Hein, les menaces quantiques, on voit ça monter. Et TELUS qui a dévoilé un nouveau service de cybersécurité il y a quelques jours. Donc là, on voit les compagnies informatiques, ou en tout cas, se parer avec des espèces de services de cybersécurité contre la menace quantique. Ça aussi, ça s'en vient puis ça arrive rapidement. Hein.
Bien, pour faire un résumé pour les auditeurs, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec la sécurité quantique? Là, c'est une nouvelle façon mathématique de travailler l'information, non pas de façon linéaire à essayer une possibilité à la fois, mais d'en faire plusieurs en parallèle. Et c'est ça qui devient vraiment donner la force pour les États-nations étrangères qui voudraient épier tout ce qu'on a comme matériel chiffré, crypté, et ça leur donne un avantage de le faire plus rapidement. Or, ça, c'est pour la portion attaque. Mais la portion défensive, c'est de un, comment est-ce qu'on store, on entrepose nos données présentement, avec quel genre de protection, donc de chiffrement, et est-ce que c'est assez fort pour présentement contre n'importe quoi? Actuellement, la réponse, c'est oui. On est fiable à la façon qu'on a le chiffrement linéaire habituel.
Le cryptage.
Mais le cryptage, mais dans un avenir rapproché, et c'est pour ça que même les furteurs, vous le savez pas, mais le Google Chrome, Firefox, ils ont tout intégré justement les portions, les modules nécessaires pour faire du chiffrement quantique pour protéger contre des attaques avec des ordinateurs quantiques. Donc, sur le marché, ça se développe, ça s'installe, et oui, ça prend de l'ampleur parce que autant qu'on a des bonnes chaires de recherche, comme l'Université de Sherbrooke, c'est pas mal les fers de lance là-dedans.
Ben, il y a un ordinateur quantique, là, je pense à IBM, en Estrie, là, oui, exact.
De mémoire, je suis pas certain si IBM, mais ils ont l'ordinateur quantique, ça, okay. Ça c'est un fait.
On l'a.
Mais il reste toujours bien que les autres ailleurs sur la planète, les Chinois, énormément, ils sont en avance sur le développement de la quantique. Mmh. Fait que donc, ils étaient anticipés dans un avenir assez rapproché qu'ils vont être en mesure de pouvoir déchiffrer, décrypter tout le matériel qu'on a de chiffré conventionnel et en tirer avantage. C'est ça qui est l'enjeu et qu'une compagnie comme TELUS ben, veut mettre de l'avant un service pour être en mesure de protéger davantage et en amont l'information. Fait que ça, on va en entendre parler de plus en plus dans les prochaines années parce que ça va être, je veux pas dire que ça va être un buzzword, un nouveau buzzword versus l'intelligence artificielle, mais ça va être, c'est une nécessité. Mais quand on parle de nécessité, ça fait quand même une dizaine d'années que c'est adressé, cela, c'est pas nouveau que hier, ils ont pensé à ça. Et au niveau gouvernemental, bien, c'est déjà mis de l'avant. Il y a déjà des prédispositions pour être en mesure de le rendre facilement intégrable au niveau gouvernemental, puis ça va descendre après ça vers le commercial pour que vous et moi, on puisse en profiter.
Bien, parce que ça, c'est un gros buzz, là. Hein? L'informatique quantique, il y a des compagnies en bourse qui poussent. T'as Google qui a mis beaucoup d'argent là-dessus, entre autres, il y en a d'autres, là. Mais ça, à terme, on pourrait être capable de décrypter ce qui est crypté actuellement, là. C'est ça qui est le danger, là.
Ça a été le jeu de la Chine là, qui, ont, à travers les années, ont fait beaucoup de détournements et d'accès à de l'information. Quand je dis détournement, ils ont vraiment pris du trafic qui s'en allait du Canada vers la Corée du Sud, puis ils ont fait transiter ça par la Chine. Ils ont emmagasiné toute l'information qui a passé là pendant 15-20 minutes, puis après ça, ils ont mis ça en fonction. Et pourquoi? Bien, ils accumulent de l'information comme ça, puis quand ils vont avoir l'opportunité de la déchiffrer, de la décrypter, bien, ils vont être en mesure de lire l'information. Puis ça, c'est là, je dis, ça va lui donner un autre avantage.
C'est ça.
Fait que il faut faire attention encore là qu'est-ce qu'on transmet, parce que si on dit « bah, pas grave, c'est chiffré, puis tout ça. Il y a une autre approche à avoir, puis il ne faut pas être demain matin parano pour dire, hey, on ne transmet plus rien, mais il faut juste être encore là, garder en tête qu'est-ce qu'on transmet, va-t-il éventuellement être décodable, déchiffrable, c'est-à-dire, et que quelqu'un d'autre, un opposant, pour ne pas dire un compétiteur, peut en tirer avantage.
Non, ça va être à suivre. L'usine IBM de Bromont, au Québec, abrite le premier ordinateur quantique du Canada, l'IBM voilà. Quantum System One, inauguré en septembre 2023. Tu vois, puis c'est le PINQ, c'est Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec qui est aussi mêlé à ça. C'est ça. Donc voilà, non, ça va vite. Ça va très vite dans le quantique. Et là, je pense qu'on voit des services de compagnies offrir. Bien, on se lance là éventuellement. Donc ça va être à surveiller. Merci beaucoup, Steve Waterhouse, de tes lumières.
Toujours un plaisir.
On se reparle. Salut.
Bonne semaine.
Bye. Bye. Voilà. Alors, au Québec, on a le seul ordinateur quantique au Canada est à Bromont.
Oui, puis je lisais là-dessus parce que c'est quand même fort intéressant, l'informatique quantique. C'est que pendant qu'un ordinateur normal, lui, va essayer toutes les possibilités, une après l'autre, de façon à une vitesse inimaginable, le quantique, lui, il fait toutes les opérations en même temps. Il fait pas d'essai-erreur. Il est capable de toutes les faire en même temps.
C'est
on disait, si jamais c'est poussé à un niveau encore plus performant, ben ça pourrait arriver que, par exemple, le quantique soit capable de défricher les clés de Bitcoin et là, tout tombe.
Ouais, on pourrait craquer le code de Bitcoin.
Ça ferait mal.
Et de certaines cryptos.
C'est ça.
Imagine, parce que le Bitcoin, lui, était inventé il y a quoi, plusieurs années. Mm-hmm. C'est une autre technologie. Mais là, tu arrives avec une espèce de super ordinateur. Imagine.
Ben, c'est pas...
On veut pas imaginer ça.
C'est ça.
Hein? On va dire demain. Voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause.
Ouais, 88-670-9098. On parle-tu du Parti libéral, Pierre?
Ben, je pense que oui.
Hein?
Parti libéral qui nous avait... c'était eux autres drapés là, d'une espèce d'aura de renouveau. Où tous les scandales liés à l'argent, ben c'était derrière eux. Là.
Ben oui, puis le nouveau Pablo, là. Hein?
Là, le nouveau Pablo de la misère, là, déclenche une enquête externe.
Est-ce qu'on va assister à l'implosion du Parti libéral du Québec, encore une fois?
Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui savent.
Hein? Il y a du monde qui savent.
Marois Risky, elle s'est présentée hier avec son avocat.
Ouais, c'est ça l'affaire.
Elle a pris une décision. Puis après ça, elle dit, moi, parce qu'elle a sûrement consulté du monde. Puis ils ont dit, ben là, tu prends un avocat, puis tu fais ta décision. Puis si t'as pas informé le chef, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Là, on commence à voir d'autres choses se pointer. J'ai comme l'impression qu'on est sur une pointe de l'iceberg. Là. Donc, en grattant, les médias vont gratter. Il y a du monde qui gratte à gauche, à droite. Il y a des gens qui vont peut-être commencer à parler.
Mais là, c'est parce que le Parti libéral montait dans les intentions de vote.
Ouais.
Notella n'est pas, mais t'es deuxième face au Parti québécois.
7, 28, 26.
Est-ce que ça va jouer dans les intentions de vote? Ben, est-ce que la confiance va disparaître?
D'une part, puis comment vous l'analysez? Vous?
Pablo va-t-il rester?
Parce que c'est la culture du Parti libéral. On avait essayé de se sortir de ça, là, de toutes les années. Charest, Couillard avait tenté aussi de faire le ménage. Couillard était au pouvoir aussi, les libéraux ont été au pouvoir. Et après ça, ben, on a eu beaucoup de difficultés après ça. Donc voilà, on ouvre les lignes après la pause.
Ouais.
418-670-9098. On revient.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto.
Okay.
418-670-9098.
C'est ça. Radio X. Bloopers. Bloopers. Bloopers.
Vous êtes des maudits malades.
Ben voyons donc.
Ben voyons donc, tabarnak.
C'est-tu correct? N'as-tu rien de pas pire là-dedans? Ou c'est tout de la marde?
Parfait, je m'en vais me faire euthanasier.
Gracieuseté de liquidation 360.
Tabarnak.
Ah, le beau bébé chien!
Oh, le beau bébé chien!
Tabarnak.
Hey, c'est bon ça, Asti. Et ça, c'est bon que j'ai fait ça.
Procurez-vous votre forfait pour le Tailgate Radio X.
J'ai jamais entendu une voix aussi tapette.
Comment?
J'ai jamais entendu une voix aussi tapette.
J'ai jamais... Mon tabarnak. Pas moyen de faire mes affaires.
Bloopers.
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 Radio X.
Vous prévoyez faire des rénos en 2026? C'est le moment ou jamais. Profitez des prix complètement fous du Boxing Day chez Céramique L'Entrepôt. Jusqu'au 5 janvier, vous allez trouver de la céramique, du flottant et du vinyle à seulement 99 sous le pied carré. En plus, de gros rabais sur les planchers chauffants. Et comme toujours, vous magasinez, vous choisissez et vous repartez avec votre stock le jour même. Le Boxing Day, 99 sous le pied carré, c'est jusqu'au 4 janvier. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'Entrepôt du hockey.
Salut Québec, ici Samuel Cadotte, propriétaire de Montréal Bungee. Cette année à Noël, offre un cadeau complètement malade. Le plus haut saut à l'élastique au Canada, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal. Sors de l'ordinaire et procure-toi ton certificat cadeau sur montrealbungee.com.
Solde d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50 % pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50 % de rabais. Dans tous les matelas Dauphin.
Sanivac est maintenant dans ta région avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Capsule.
Radio X.
Pas de place pour tout après votre déménagement? Astral Déménagement a la solution. Entreposage sécuritaire, propre et chauffé à court ou long terme. Astral Déménagement, déménager, entreposer, respirer. Astral.ms. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford. Votre national sera en action le 11 janvier prochain au Centre Bonheur de l'Ancienne Lorette. Votre équipe affronte les Éperviers de Sorel-Tracy à 14h. Venez encourager votre national. Ce match est présenté par Bernard Filiatro, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale. Venez profiter de nos soirées hockey à l'un de nos restaurants Trois Brasseurs des Galeries de la Capitale, de Grande Allée ou Place Sainte-Foy. Pour une expérience hockey ultime, on se rejoint entre amis aux Trois Brasseurs. Bon plat et bonne bière brassée sur place vous attardent.
Choix.
Choix.
98.
98.
1.
L'original.
Choix.
Choix.
Radio X. À Québec.
Québec.
C'est Radio X.
Choix.
Radio X. Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Hey, vraiment, vraiment content d'un invité de marque avec nous en studio. Un gars d'ici, de Québec, de Beauport, pour être plus précis, et qui a une carrière incroyable dans la Ligue nationale de hockey depuis maintenant plus de 25 ans. Il a commencé dans le circuit Batman en 2000-2001. Il a fait tous les événements importants comme la finale de la Coupe Stanley, la série des stades, la Stadium Series, qu'on appelle en anglais, Coupe du Monde en 2004, même la série des quatre nations, confrontation des quatre nations, avec la fameuse victoire du Canada. On se souvient de cette bagarre avec Matthew Tkachuk, Brady et tout ça. Ça avait été assez mémorable, ce moment-là au Centre Bell. Et je parle pas d'un joueur qu'on a avec nous en studio, mais bien d'un juge de ligne, Johnny Murray, qui est avec nous. Salut, Johnny.
Salut, la gang.
Comment ça va?
Ça va super bien.
Pensais-tu un jour pouvoir atteindre la fameuse marque des 1500 matchs? Parce que, tu sais, non seulement le 1000, c'est un plateau qui est remarquable, mais on se rend à 1500, je veux dire. On peut pas penser ça dans une carrière, ben, j'imagine,
c'est,
Johnny.
C'est spécial y penser. En 2000, quand je me suis fait engager, je me suis dit, hey, si je fais 1000 matchs dans la Ligue nationale, pour moi, c'est une belle carrière. Puis pour un arbitre de la Ligue nationale, c'est une super carrière de faire 1000 matchs.
Oui.
Ça l'a bien été pour moi, les blessures. J'ai eu quelques blessures. Par contre, les bons docteurs qu'on a, j'ai eu des opérations dans le dos. Alors, ça n'a pas été facile, mais là, je suis rendu là. Puis c'est drôle, le matin, j'ai fait mon entraînement. Je sors du vélo, puis je me dis, Colin, que je me sens bien cette année, à trois jours ou deux jours de 51e anniversaire.
Ouais.
C'est spécial, incroyable. Mais ça va super bien.
Puis on s'entend que un peu comme les joueurs de la Ligue nationale, on se souvient, il y a 20-30 ans, les camps d'entraînement, c'était pour se remettre en shape. Mais on voit les joueurs actuels dans la Ligue, je veux dire, sont en shape à l'année. On peut penser aux Panthers qui là, se sont rendus en finale pour une troisième année de suite. On l'avait vu avec Tampa un peu quelques années auparavant. Puis j'imagine, juge de ligne, arbitre également, il faut être en shape pour être dans la Ligue nationale.
Ah, c'est pareil pour nous. Je vous dirais même que nos tests physiques sont plus demandants qu'un joueur. C'est sûr qu'un joueur... Il a fait ses preuves là, tout le long de sa carrière dans le junior, dans la Ligue américaine, il monte dans la Ligue nationale. Les joueurs doivent être prêts une fois arrivés sur la glace. Nous, c'est pareil. Par contre, vu qu'on est un petit peu plus vieux, ils nous testent encore plus.
Okay.
Alors, c'est sûr que je le comprends, puis je le comprends pas. Puis d'un autre côté, c'est bien, surtout pour une personne comme moi qui m'en vient, qui s'en vient dans les vieux de la Ligue, ça me garde en forme.
Ouais.
Ça nous garde prêt pour le match. Là. On a un poids à respecter, on a un pourcentage de gras à respecter quand on arrive au camp. Alors, dans à peu près d'une dizaine de jours, je dois aller à Buffalo pour aller me faire tester, pour aller faire des tests physiques pour une autre chose. Habituellement, c'est au mois de septembre, mais cet été, ça allait arriver un petit peu plus tôt pour moi. Là.
Puis, comment est-ce qu'on devient, moi, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça, comme moi, comment un Québécois peut devenir juge de ligne dans la LNH comme ça?
Bien, ça, c'est quand tes parents, à 12, 13, 14 ans, disaient « Je te donne pas une scène ». Fait que là, tu te dis comment... non, je ris bien, mais j'adore mes parents. Ils ont tout bien fait, mais il reste que ça m'a appris à avoir une petite job. Ça m'a appris à rester sur la glace puis à faire beaucoup de matchs dans les niveaux mineurs. Alors, j'ai commencé comme ça, puis je voyais que j'avais une facilité à communiquer avec les joueurs et les entraîneurs, même à un bas âge. À l'âge de 15 ans, ils m'ont demandé d'aller arbitrer dans le provincial, ce qui veut dire le Midget 3.
Ah oui.
Alors, à 15 ans, ben j'avais 15 ans, puis c'est là que j'ai commencé mes ligues Midget 3 Junior A. Un an après, on m'a demandé d'aller dans le Junior Majeur. Faire quelques matchs, voir si ça allait bien aller. Alors, à 17 ans, j'étais un peu temps plein dans cette ligue-là. Après ça, ben quand tu es rendu au niveau du junior majeur, c'est la Ligue nationale qui vient de voir certains matchs. Alors, okay. J'ai eu l'opportunité de travailler...
Fait qu'il évalue ce qui se passe avec les arbitres juges de ligne sur les situations de jeu.
Exactement. Fait qu'à l'âge de 19 ans, on m'a demandé de travailler de la Ligue américaine à Cornwall. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps,
oui.
Cornwall était là.
Oui.
Puis à Fredericton. Alors, je faisais les matchs locaux à ces deux endroits-là, okay. En même temps que je faisais du junior majeur pendant 8 ans. Puis 5 ans plus tard, j'ai signé temps plein pour la Ligue nationale de hockey à 24 ans.
Puis est-ce qu'initialement, tu étais un joueur de hockey temps plein qui, finalement, avec oui. le temps, tu es devenu un oui. arbitre puis un oui. juge de ligne puis tout ça?
Oui, je jouais du bon calibre. C'était du 2A. Puis là, si je peux rappeler aux gens, là, du 2A, là, 30-35 ouais. ans, c'est pas du 2A qu'on... Il y a beaucoup de clubs 2A aujourd'hui. Chaque école a des 2A, des 3A, puis tout ça. Puis dans le temps, il y avait un club 2A à Beauport, un à Sainte-Foy, un à Lévis. Puis après ça, les clubs étaient loin. Puis l'été, on jouait du 3A, puis les gouverneurs, avec les gouverneurs de Sainte-Foy, ma deuxième année. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter parce que je voyais que j'allais pas avoir une carrière de joueur. Puis ça allait super bien, l'arbitrage.
Okay.
Alors, j'ai décidé de quitter le hockey puis donner tout mon temps à l'arbitrage. Je me suis dit, si... Je donne pas le temps maximal à mon rêve, parce que c'était mon rêve de devenir joueur dans la Ligue nationale de hockey. Ça n'a pas fonctionné. J'ai trouvé une autre façon de me rendre.
Incroyable.
Qui m'a très bien servi dans ma vie.
Ben oui, absolument. Puis tu parlais que tu es arrivé dans la Ligue hockey junior majeure du Québec. Tu avais 17 ans. On s'entend dans le junior, ça peut se rendre jusqu'à 20 ans.
Oui.
Fait que tu arrives, tu es jeune, il y en a qui sont plus vieux que toi. Tu sais, il veut pas, il y a un aspect des fois intimidation. Puis on peut reparler aussi avec la Ligue nationale parce qu'il oui. y a beaucoup d'entraîneurs adjoints et des entraîneurs. Tu as 20 joueurs à gérer, tout ça. Mais quand t'es jeune comme ça, puis t'as des joueurs qui sont plus vieux que toi, il peut avoir un aspect aussi qui vont essayer de prendre le dessus sur toi. Puis à une certaine époque aussi, le junior majeur, puis le hockey en général, ça brassait pas mal plus. Mmh. Hein? Il y avait de la bagarre au pied carré.
C'était épouvantable. C'était, je te dirais, dans les années à la vieille cabane, à la petite cabane qui appelait Beauport.
Oui. Les Arfans.
Moi, les Arfans de Beauport, la section 6, je m'en souviens comme si c'était hier. Puis sais-tu quoi, c'est ça qui m'a fait grandir, de vivre des moments de pression, de savoir comment gérer des joueurs en maudit. Ça fait partie de l'apprentissage, puis je le vois aujourd'hui, ça me sert énormément, même encore aujourd'hui, où ce que il y a beaucoup, c'est beaucoup moins physique, mais par contre, on gère 40 millionnaires, on va se le dire, en même temps, des joueurs, ce type de joueurs-là, il y a des joueurs qu'il faut que tu leur crées après, des joueurs qu'il faut que tu leur sacs après, des joueurs qu'il faut que tu leur donnes une petite tape dans le dos, hey, beau petit jeu. Fait que là, il sauve à toi, là, il est prêt à recevoir ta critique. Alors, un bon officiel, c'est un bon communicateur.
Mm-hmm. Puis, je pense que,
c'est ça, c'est un peu psychologue, c'est de voir un peu comment que les gens ils ont besoin de se faire parler. Puis je pense que les dirigeants d'entreprise, à n'importe quelle entreprise, une entreprise qui va bien, ben si le boss parle bien à ses employés puis réussit à savoir comment aller parler à leurs employés,
oui,
ça fait toute la différence. C'est pas tout le temps de l'argent, c'est de la façon de parler à leurs employés, les respecter.
La majorité de ta vie, évidemment, c'est en Floride, mais oui, tu la passes aussi ici au Québec. Tu as parlé rapidement tantôt d'une école.
Oui.
Tu as mis sur pied une école il y a quand même déjà un bon moment.
Oui, ça fait 21 ans que j'ai l'école Extreme Power Skating, qu'on appelle aujourd'hui l'école EPS.
Okay.
On est à notre, je crois, 8e semaine, 7 semaines dans l'été. On a 1500 jeunes qui passent chez nous. Alors, c'est une école que j'ai commencé vraiment avec 30 jeunes.
Okay.
L'année d'après, je passe à 60, 120. Puis là, on est rendu à 1500 jeunes, moi puis mon partner Guillaume Ouellette.
Puis après ça, j'imagine que ces gars-là, on peut en entendre parler après, parce que non seulement ça peut être la Ligue nationale éventuellement, ou ça peut être même des carrières en Europe, oui, parce que tu sais, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de gars qui gagnent très bien leur vie en Europe, Ligue continentale, Ligue de Suisse, en Slovaquie, etc. Là.
Absolument. J'ai beaucoup d'entraîneurs qui travaillent pour moi présentement. Il y en a qui jouent en Europe, il y en a qui jouent dans des ligues universitaires, McGill, il y en a qui jouent aux États-Unis dans des divisions D1.
Oui.
Alors, la force de l'école de hockey, c'est pas le propriétaire. C'est vraiment je dis les jeunes parce que je suis rendu vieux, là, mais les jeunes...
T'es rendu un vétéran.
Oui, c'est ça. Peut-être que je devrais utiliser ça. Mais les gars, en même temps, on est sévère en tant que propriétaire. On leur demande des exigences, puis il y a des raisons pourquoi les jeunes sont très bien encadrés. C'est ça qui a fait le succès de l'école de hockey, c'est que les jeunes sont encadrés, il n'y a pas de niaisage. C'est pas mon oncle Jacques qui embarque sur la glace, qui enseigne à ton jeune. C'est des gars qui jouent dans le junior majeur. C'est la force de l'école de hockey. On se le cachera pas, puis... Je fais pas de pub, oui, je fais des choses sur Facebook.
Mais non, c'est bien correct.
Mais
d'ailleurs, c'est en live sur Facebook en ce moment.
Oui, d'ailleurs, les gens veulent aller voir, peuvent aller voir avec votre permission, bien entendu. C'est super gentil. Alors, c'est super.
Puis la raison pour laquelle tu as ouvert une école ici et pas en Floride, y en a-tu une?
Ben, d'ailleurs, j'ai commencé à Tampa Bay avant que je vivais.
Ah, ouais.
Moi, je vivais à Tampa Bay dans le temps que Bob Hartley coachait à Atlanta. À un moment donné, en fin d'année, il me dit, Johnny, c'est quoi tu fais l'été? Puis dans ce temps-là, dans la Ligue nationale, j'avais beaucoup de congés. J'avais 5 mois de vacances durant l'été parce que j'étais jeune, je faisais pas les séries. Il dit, Caroline, t'as un bon coup de patin, pourquoi tu ne pars pas à une école de hockey? J'ai commencé à Tampa Bay avec 30 jeunes. L'année d'après, j'ai dit, Caroline, je vais faire un English Immersion, je ne sais pas comment le dire en français. Là.
Immersion
anglaise. Ouais. Fait que j'ai amené 24 jeunes de Québec à Tampa Bay pendant 2 semaines qui étaient hébergés dans des familles anglophones. Après ça, j'ai dit, Caroline, si les autres sont capables de le faire, les Américains sont capables de le faire. Fait que je ramenais 24 jeunes après ça. Fait que c'est de même que j'ai bâti l'école, le nom de l'école. Okay. Puis c'est de même que ça a parti. J'ai commencé une semaine. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai 12 semaines durant la saison estivale.
Wow. Ouais, OK. Ouais. Puis évidemment, tu es dans le secteur de Tampa Bay et tout ça.
J'étais.
Tu étais. Okay,
là, j'étais à Fort Lauderdale.
T'es Fort Lauderdale. Mais t'es en Floride quand même.
Oui, oui, oui.
Puis on regarde les dernières années en Floride, ça a été un franc succès. Là, on a même la classique hivernale qui s'en va en Floride contre les Rangers, 1er janvier avec les Panthers. Stadium Series, Lightning contre les Bruins au mois de février. Mais si on recule la cassette également, c'est 3 finales pour les Panthers, 3 finales pour le Lightning. Est-ce qu'on sent qu'il y a une émergence pour le hockey du côté de la Floride?
Absolument, absolument. Puis ça part des dirigeants, encore une fois. Je reviens encore avec les dirigeants. Ils ont tout fait pour ramener les joueurs chez eux. Je me souviens, quand je suis déménagé en Floride, les joueurs ne voulaient pas aller jouer en Floride. C'est un club de dernier plan. Personne ne me veut, je vais aller jouer là. Aujourd'hui, les propriétaires, directeur général, M. Zito, il a fait un aréna de pratique incroyable avec un gym intérieur. Je suis allé parce que j'ai eu des blessures.
J'ai vu des photos, des installations.
Oui, c'est incroyable. Les joueurs, ça reste tout sur l'Asso-Las Boulevard. Ils s'en vont à l'aréna de pratique en kart, ils sont en short, tout ça. Fait que la vie, je regarde Brad Marchand qui est arrivé en Floride, il dit, ben voyons donc, tu sais, c'est ça vraiment, là, tu sais, ils sont à 2-3 minutes, arrivent à l'aréna de pratique, ils retournent, ils ont besoin d'aller à leur aréna à peu près, je sais pas, moi, 1 à 2 fois par semaine.
Ouais.
Fait que c'est idéal, là, le setup qu'ils ont là-bas, c'est à faire rêver un joueur.
Non, absolument. Puis on parle de la Floride, mais une nouvelle formation qui est arrivée en 2017 a fait réagir assez rapidement parce qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley dès leur première saison. On se souvient que c'était Gérard Galland qui était l'entraîneur-chef à ce moment-là. Mais écoute, 5 ans après, les Golden Knights, c'est une Coupe Stanley. Mitch Marner vient signer un contrat avec eux pour une durée de 8 ans parce que son contrat finalement a été échangé avec les Maple Leafs. Je pense qu'il y a plus d'intérêt qu'avant pour les marchés qui sont non traditionnels pour le hockey. Puis, veut pas, même ces marchés-là se développent pour le hockey en général. Si on peut penser à Austin Matthews, qui est né en Arizona aussi.
Oui, ben c'est drôle l'expression. Tu dis c'est que c'est pas des marchés vraiment que les joueurs veulent aller. Mais à ce temps, les joueurs, ils font leur famille dans ces places-là, c'est des places idéales. T'sais, on pense à Las Vegas, on pense à la Strip. Mais à l'extérieur de Las Vegas, c'est écœurant comment c'est beau. Là. C'est à faire rêver. On voit le désert un petit peu. Ben c'est, oui. C'est une ambiance différente que le Québec ou bien Toronto ou bien les autres villes canadiennes ou américaines. Alors, ces villes-là attirent les joueurs. C'est sûr que les taxes que les joueurs payent, ça l'aide aussi. Mais au bout de la ligne, c'est qui joue dans l'équipe, c'est qui entoure ces joueurs-là. C'est ça qui fait la grosse différence.
Je regardais aussi passer une vidéo dans les derniers jours du calendrier du Canadien, mais avec l'avion qui se déplace. Fait Canadien-Toronto, Toronto-Canadien, ben Montréal, après ça, Buffalo, puis on se déplace. Je sais pas c'est combien de kilomètres j'essaie de trouver tantôt, là, mais c'est...
Voulez-vous que je vous en fasse un, moi? C'est une petite map
mais
mes avions. N'oubliez pas que les équipes jouent 41 matchs à la maison. Moi, j'en joue pas à la maison.
C'est ça, t'as pas de domicile fixe.
J'essaie pas de dire que ma job est. J'essaie pas de dire que ma job est plus ou est moins. Là, ce que je dis aux gens, c'est que oui, je vis à Fort Lauderdale, mais je fais environ 5, 6, 7 matchs par année là-bas. Alors, faut pas oublier que les joueurs, quand ils jouent à Chicago, ils reviennent, mettons, ils jouent à Chicago un mardi, ils reviennent la nuit. Le mercredi matin, ils se lèvent dans leur lit. Leur prochain match, souvent, c'est le samedi. Fait que là, ils passent 4 jours à la maison. Mais nous, les games, les jours off entre les games, souvent, on les passe sur la route. Alors, faut partir. Bon, ben moi, j'étais à Chicago. Le lendemain, je vais aller à Saint-Louis. J'ai peut-être un day off. Fait que là, pour faire deux matchs, j'ai passé trois jours sur la route. Là, je suis pas encore revenu parce qu'on n'a pas des avions nolisés comme les joueurs.
Ouais.
Des fois, l'avion ne part pas. Des fois, il y a des cancellations. Alors, c'est...
Ouais, des tempêtes de neige ou le temps des fêtes avec la Floride, puis tout ça, sait c'est quoi, là, ça
si
doit
je
être...
Si je fais mon horaire sur une map, là, on peut s'étourdir pas mal.
Puis j'imagine que c'est la Ligue prévoit le calendrier pour vous autres aussi, pour que ce soit, tu sais, oui, il y a beaucoup de voyagements, mais pour que ce soit d'un certain côté plus agréable, c'est-à-dire, mettons, que tu t'en vas à San Jose, mais ben, peut-être qu'ils vont te faire des matchs à Los Angeles, Anaheim aussi.
Absolument, okay. Ils ne feront pas faire Toronto, Los Angeles, Buffalo, puis Saint-Louis. C'est sûr que quand je vais dans l'Ouest... Je vais là pour 8, 9, 10 jours. Puis c'est ça. Là, je fais environ 5 matchs dans ce coin-là de pays.
Okay. Tu as l'intention de faire ça encore combien d'années?
Ben là, heureusement, je suis content. L'année passée, la Ligue m'a approché. Puis ça, c'est une belle chose que la Ligue font. C'est qu'elle nous approche pour un peu savoir combien d'années on veut travailler encore. Puis eux autres, ben c'est sûr que si on dans la tête de t'en faire travailler deux, puis toi, tu vas en faire 6, ben là, ça marche pas. C'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est une façon polie de dire On veut pas te montrer à la porte, mais on veut que tu te prépares. Regarde, il te reste pas 10 ans, il te reste un certain nombre d'années. Fait que tout ça pour dire que j'ai signé 6 ans l'année passée, alors il me reste 5 ans, ça va me donner 30 ans sur la glace. Je pense qu'on va être pas bien ben dans l'histoire de la
mission accomplie.
Mission accomplie, alors c'est super. Là. Ouais.
Puis t'aurais pas un petit scoop pour nous autres?
Je peux en parler. Ah. J'ai reçu... un appel du comité olympique de la Ligue nationale de hockey. Je vais faire partie des Olympiques 2026.
Wow!
Très bravo. Cool!
Vraiment, c'est super.
C'est un retour pour la Ligue nationale aux Jeux olympiques. Ouais. On a eu la confrontation des quatre nations avec le duel Canada-États-Unis en finale. C'est un peu un avant-goût de ce qui va se passer du côté de l'Italie cet hiver. Fait que toi, t'avais déjà été dans le passé aux Olympiques?
Non, j'avais jamais été. C'était la seule chose dans ma carrière que j'ai pas fait. Là, comme vous m'avez mentionné tantôt, j'ai fait le championnat du monde, j'ai fait... la finale du championnat du monde, la finale du Four Nations.
Yes.
J'ai 7 coupes Stanley à mon dossier. Alors, c'était quelque chose que si j'avais pas fait des Olympiques avant la fin de ma carrière, ça, on dit en anglais, ça te define pas.
Ça te définit pas.
Mais par contre, là, je vais être...
Il y a quelque chose de spécial.
Pouvoir, comme tantôt, t'as dit, Mel, ça va être checké, ça, avec. Alors, c'est super.
Cette année, pendant les séries éliminatoires, j'entendais souvent dans les médias les gens chialer sur les décisions des arbitres, les décisions des juges de ligne. Toi, de l'autre côté de ça, quand t'entends du chialage, mettons, sur une décision que t'aurais pris ou qu'un de tes collègues a pris, tu prends ça comment?
Laisse-moi te poser une question en premier. Les Canadiens, t'as-tu dans les séries?
Oui.
Tabarnak, et voilà. On vient de la trouver, cette affaire-là. Non, mais les gens chialent, c'est des passionnés. On accepte ça. Je veux dire, tu vas mettre deux fans, un fan des Canadiens puis un fan de Toronto, un à côté de l'autre. Le fan des Canadiens va chialer sur les trois calls qu'ils n'ont pas eu durant le match, puis le fan de Toronto va chialer sur les trois calls qu'il n'a pas eu durant le match. Faut un peu... un arbitre, c'est un peu... quelqu'un, c'est un arbitre, c'est quelqu'un qui est juste.
Parce que médiateur.
Non, j'aime pas le mot médiateur, parce qu'il faut pas dire parce que je te donne ça, je vais te redonner ça.
Ouais.
Si j'en manque une d'un bord, je l'ai manqué, puis je l'ai manqué.
C'est ça.
Sur le big scheme, le big... à la fin du match ou à la fin de la série... C'est bien rare qu'on va en manquer cinq juste d'un bord. Alors,
ça s'égalise.
Ça fait partie de la partie. Dites-vous là, qu'il y a 72 angles de caméra durant un match de playoff. Fait que c'est sûr que, je vais vous donner un exemple. Mel, t'es rendu dans la Ligue nationale de hockey.
Oui!
Fait que il arrive un bâton élevé que les officiels n'ont pas vu sur la glace. Mais là, eux... D'un, la part du temps, les gens ne le savent même pas qu'il y a eu un coup manqué. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les meilleurs angles de caméra. Ils prennent la meilleure angle de caméra, pardon. Ils font slow motion dessus. Puis là, ils disent, ben, regardez le bâton à Mélanie, mais qui passe à côté de Jordan. Le patin doigt lève. Puis là, ils vous expliquent en vous disant c'est quoi. Ils l'analysent bien comme il faut. Puis vous, là, vous focussez en haut, coin droit de la TV. Puis là, c'est là que vous dites... comment il a fait manquer ça?
C'est
flagrant, mais je peux vous dire que ça se passe tellement vite sur une glace. Là, c'est incroyable. De un, on ne sait pas que l'ice stick va se passer. De deux, on a 200 pieds à couvrir. On a les bancs à couvrir.
Juste
deux yeux, puis ça, l'autre affaire, il faut que les gens pensent, c'est que l'angle de la caméra est à peu près 75 pieds dans les airs. Fait que c'est sûr que les quatre gros bonhommes de 200 pieds qui sont en avant de moi, je ne peux pas voir à travers des autres. Fait que c'est dur de voir. Au moment que tu penses que tu vas voir le jeu dans mon cas, moi, sur un offside, si McDavid décide de me passer d'en face, au moment que la rondelle passe à ligne bleue, ben, Colin, faut que je prenne des décisions rapidement. Puis c'est l'expérience qui fait que la part du temps, tu prends les meilleures décisions. Fait que je sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ben oui, c'est bon.
J'imagine aussi que c'est comme une carapasse là, contre
ça, absolument,
les insultes.
Absolument. Puis les insultes, c'est absolument rien. Tu sais, là, 6 ans, j'ai manqué une passe avec la main qui était visible par tout le monde, excepté par les 4 gars sur la glace. Ce qu'ils ont même fait à la Ligue nationale, c'est qu'ils ont montré l'angle de moi, l'angle des 4 officiels, vraiment. Là,
ah oui, il évalue l'angle.
Dit,
okay.
Là, comment vous faites pour coller ça? Mm. Fait que tout le monde, ils ont dit, puis pour revenir à des menaces et tout, ben je suis arrivé à mon hôtel, j'ai eu une menace de mort, comme de quoi j'allais pas sortir de l'hôtel.
Voyons donc.
Oui, c'est rendu intense. C'est...
Il y a du monde qui se verge au décoquer. Au décoquer, ça se fesse d'en face, ça bat des arbitres.
Mais en même temps, aujourd'hui, il y a du gambling. Fait qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de sous sur des matchs qui peuvent. Fait que, tu sais, faut comprendre les gens. Les gens payent. Moi, j'ai un job. C'est bien rare, j'écoute la TV. C'est bien rare, j'écoute. Tu m'as parlé de Mitch Marner rendu. Je pense que je l'ai su. Moi, l'été, là, j'ouvre pas les médias, j'écoute pas la TV.
Okay.
Je fais vraiment un vide. Je vais arriver sur la glace là, dans un mois et demi. Puis t'es rendu ici, toi? Okay. J'exagère, là, mais il reste que. Je suis un gars que quand je t'en vais pas en vacances, ben oui, quand je suis en vacances, je fais le vide. Puis nouvelle saison, j'arbitre les Blancs contre les Bleus, comme les Canadiens contre les Nordiques de Québec.
Non, c'est ça. Puis
non, je ne sais pas s'il va y avoir un club ici à un moment donné.
C'est ma prochaine question, madame. Mais Louis parlait des séries, puis les calls, puis tout ça, mais quelque chose qui est différent des autres sports avec le hockey, c'est qu'au niveau, justement, des pénalités, des fois, on baisse un petit peu le niveau. Ça peut être difficile dans les premiers moments des séries pour s'ajuster, okay. Parce qu'on voit une différence.
Non, on baisse pas les niveaux. Je vais vous expliquer ce qui se passe.
Bon. OK.
La première chose qu'un entraîneur fait quand il rentre dans une chambre d'hockey, il dit « Poignez pas des punitions stupides, surtout en zone neutre.
Mm-hmm. »
La première affaire, demandez à n'importe quel joueur d'hockey qui a joué un haut calibre, ils vont tous vous dire « Non, non, c'est vrai, si on pogne une punition niaiseuse, on est dans la merde avec le coach. »
Non, ça va être ça.
C'est de un. De deux, ils prennent les 22 meilleurs officiels de la Ligue nationale pour arbitrer ces matchs-là. Fait que les punitions que vous êtes habitués d'avoir callées au mois de novembre par un jeune qui se fait en dedans de 5 ans qui est là, qui a moins d'expérience, qui apprend un peu à monter, bien, se calleront pas nécessairement dans la première ronde parce que c'est un vétéran. On veut s'assurer que c'est un vrai 2 minutes et non pas 1 minute 45. Tu sais, il y a bien des matchs que moi-même, que je regarde, je me dis, ouais, c'est un bon call. Par contre, s'il l'aurait laissé aller, j'aurais été capable de vivre avec ça.
Okay.
Faut se dire que un hooking, un retenu, c'est ça, retenu
ouais,
en français?
Ouais, retenu, ouais.
Un retenu, là, c'est pas blanc et noir. Là. Mm-hmm. Un retenu, là, tu sais, il y a un petit peu de gray area. Fait que des fois, durant la saison, il y a un gray area que je suis capable de le défendre, que si c'est un 2 minutes, puis je suis capable de défendre que c'est pas un 2 minutes.
Okay.
Durant la saison, vous en voyez plus. Durant les playoffs, c'est des arbitres expérimentés qui se font pas pogner sur des minutes de 1 minute, des punitions de 1 minute 45. Puis je parle souvent des joueurs de ça, puis les joueurs, c'est drôle parce que c'est les partisans qui chialent. Puis quand on parle aux joueurs, non, c'est pas de problème, c'est parfait. La game, c'est les joueurs, ça a de l'air, sont intenses, puis c'est sont comme ça a de l'air, ça veut dire ça,
oui.
Sont disciplinés, ils sont focusés sur qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait que je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a moins de punitions. Oui, il y a moins de punitions, mais c'est pas juste à cause de nous autres.
Ben non, c'est ça.
Ben oui, c'est à cause de nous autres.
C'est l'ensemble du jeu qui se referme.
C'est l'ensemble des joueurs qui comprennent qu'il ne faut pas qu'ils prennent une punition niaiseuse. Puis nous, qu'on a un petit peu plus d'expérience rendue en première ronde. Deuxième ronde, c'est encore pire ou mieux, dépendamment de quel bord vous le voyez. Là.
Avec les blessures
ouais, c'est
aussi.
Ça, exactement. Avec les blessures. Puis, ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Dites-vous, les gars qui font des demi-finales, les finales de la Coupe Stanley, c'est des gars qui sont expérimentés, qui se font pas pogner sur des choses que peut-être un plus jeune pourrait se faire pogner durant une saison.
Mm-hmm. Puis au niveau, justement, des évaluations, parce que vous en avez toujours... J'imagine aussi qu'il y en a certains, ça peut arriver des fois qu'on n'est pas capable de suivre le rythme de la Ligue nationale de hockey parce qu'on parle des joueurs, mais exemple, juge de ligne, arbitre, c'est des choses qui peuvent arriver également?
Je vous dirais, à cette heure, on est tellement testés, là, puis les jeunes qui arrivent, là, c'est souvent des anciens joueurs de la Ligue nationale, pas de la Ligue nationale, mais de la Ligue américaine.
C'est ça, il y a un certain bagage.
Qui deviennent juge de ligne, qui deviennent arbitre. Fait que les gars qui arrivent à cette heure, là, ils ont tous du 6 body fat sur eux autres. C'est quasiment gênant d'enlever ton gilet devant les autres.
Puis ça commence-tu de plus en plus jeune aussi? Parce que, évidemment, on voit les joueurs qui, des fois, avant, tu sais, la moyenne, c'était beaucoup plus vieux, puis c'est rendu que des fois, du 20-21 ans, puis ils repêchaient deuxième ronde, cause une surprise arrive dans la Ligue nationale. On voit ça également ce côté des arbitres et juges de ligne.
On voit ça du
côté
des arbitres, sauf que dites-vous qu'un joueur et un arbitre, c'est vraiment deux thinking différents. Si je m'assieds à côté de McDavid dans les estrades puis je regarde une game de hockey, il va me pointer des affaires que je vais faire en one puis moi, je vais faire pareil avec lui.
Okay.
C'est ça qui fait que sur un match avec des vétérans comme ces gars-là, on est capable de bien s'entendre parce qu'il comprend que je comprends la game. Mm-hmm. Quand il m'arrive avec une situation, je respecte son côté. Ça revient un peu à la communication. Par contre, je pourrais vous donner plein d'exemples de situations qui peuvent arriver. Mais en tout cas, je ne sais pas si on a du temps. Là, mais,
ben oui, on a du temps.
Quelque chose après, il me semble.
Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la glace que les gens ne sachent pas, qui se passent entre joueurs et officiels et entraîneurs. Il y a toutes sortes de choses.
C'est ça.
C'est un art d'être un arbitre de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est un art d'être un joueur, c'est un art dans n'importe quel sport. C'est pas nécessairement le meilleur arbitre, mais c'est le meilleur communicateur.
Absolument.
C'est son métier, hein?
Oui, oui. Puis au niveau des règlements, tu sais, coach challenge, puis obstruction sur le gardien, il y a beaucoup de changements année après année. Puis on reparlera tantôt de la convention collective qui va entrer en vigueur, d'ailleurs, à partir de l'année prochaine. Mais est-ce que quand vous arrivez pour vos camps d'entraînement, puis tout ça, il y a une couple de précisions puis de nouveautés à regarder année après année? Parce que des fois, tu sais, exemple, obstruction sur le gardien, je sais qu'il y avait eu quelques modifications là-dessus. Fait que j'imagine qu'il y a certaines mises à jour avant de débuter les saisons.
Oui,
là.
Oui nous autres, on va au camp d'entraînement là, pour de la Ligue nationale, c'est du 5 au 10. Pendant ce temps-là, on a 2 séances de glace par jour.
Okay.
Dans le fond, on se fait un tournoi de hockey entre 90 arbitres, parce qu'il y a des gars du mineur qui viennent aussi.
Ah, oui.
On se fait un tournoi de hockey, on se fait des équipes. Fait que ça nous fait patiner, ça nous ferait préparer au camp. Puis on fait du 4 contre 4, fait que la glace est plus libre. Mais pour revenir aux règlements, ben c'est sûr que on voit beaucoup de vidéos, beaucoup de situations. Situation d'un juge de ligne qui n'a pas été sur le bon joueur, sur une altercation. Mm-hmm. J'ai de la misère avec les mots en français sur des mots d'anglais. Là. Mais après ça, on regarde, bon, mais tu vois, si lui arrêtait sur ce gars-là en partant, il n'y aurait pas eu de foire, il n'y aurait pas eu, tu sais, il y a eu à un moment donné une situation avec McDavid vers la fin de l'année, là. Je pense que c'est fait suspendre. Fait que ces genres on va revoir ça et dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Peut-être si le juge de ligne ou l'arbitre aurait fait telle affaire, ben on aurait été capable de sauver telle et telle situation. Puis la même chose sur les goalie interference.
Ouais.
On revoit puis on dit, bon, mais pourquoi qu'on a refusé le but? Pourquoi qu'on ne l'a pas refusé? Puis il y a des fois que la salle est un peu 50-50 parce que il n'y a pas de gray. Il y a du gray dans tout. T'sais.
Mais ça revient à une décision humaine au bout de la ligne. Là.
Exactement. Ah oui. C'est pas comme un peu le football. C'est-tu rendu au 20 verges ou c'est-tu pas rendu au 20 verges? La POC, est-tu rentrée? Elle n'est pas rentrée? Ben, ça, c'est facile. C'est black and white. Mais quand tu parles de jugement, ben, on a à peu près tout le même jugement, mais il y a un petit peu de gray area entre les deux, mm-hmm. comme dans n'importe quoi, comme dans une vie de couple, pareil.
Puis est-ce que des fois, avec votre expérience, vous proposez, exemple, de certaines modifications au règlement? Moi, je pense, exemple, au dégagement refusé. À une certaine époque, il fallait aller toucher la rondelle dans la zone, finalement. Là, finalement, on siffle maintenant là, oui. quand le joueur est devant. Est-ce que ça vous arrive d'en proposer?
Il y en a un cette année que ça fait à peu près 5 ans que je tanne mon boss.
Ah, ouais.
Changer.
Okay.
Je crois que c'est cette année, j'ai entendu des. Mais je suis pas sûr, là, avant de partir de quoi. Puis c'est peut-être sorti, parce qu'encore une fois, j'ai même pas écouté j'ai même pas lu ce qui se passe. Tu sais, des fois, on fait des erreurs sur des dégagements. Fait que le juge de ligne, il siffle. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on ramène la rondelle au centre. Je sais pas si vous vous souvenez de
ça.
Un juge de ligne qui fait une erreur, on ramenait la rondelle au centre. Ce que j'aime pas de ça, c'est que dans le fond, l'erreur, c'est le juge de ligne qui l'a fait. Les Canadiens, ils ont envoyé à POC dans le fond de la zone légalement. Puis, à cause de l'erreur du juge de ligne, on ramène deux zones, la zone offensive et la zone neutre, au centre de la glace. Fait qu'on les désavantage. Puis, en plus de ça, on avantage l'autre équipe de deux zones aussi. Fait que la raison pourquoi que je tenais à ce que le règlement-là change, puis j'espère qu'il va changer, c'est que si, mettons, tu perds 2-1, il reste 10 secondes dans le game, puis je fais une erreur de dégagement, bien, le 10 secondes, il est énorme.
Non,
si
oui.
je mets la POC, je fais le face-off dans la zone offensive dont les Canadiens ils ont they earn the right to be there. Là. Mm-hmm. Ils sont allés dans la zone offensive légalement. Ouais. Ben, ces 10 secondes-là, ils viennent quasiment de perdre la game là-dessus. Mais si je remets le face-off en zone offensive, les Canadiens peuvent gagner le face-off, boum, 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 au net, puis ils peuvent tailler la game. Okay. Dû à mon erreur, ben là, je les pénalise pas vraiment parce que là, ils peuvent setter up pour le face-off puis peut-être score un goal.
OK. Puis au niveau des caméras corporelles, je sais que quand Rogers avait signé son contrat dans les premières années, TVA Sport, entre autres, on voyait qu'il y en avait un petit peu plus, même au niveau des micros, ces affaires-là. Est-ce que des caméras corporelles sur les arbitres, si tu parlais des 72 angles de caméra tantôt, ouais. Est-ce que ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec les
arbitres? Ils l'ont fait, je me souviens plus quelle station, là, ils l'ont fait il y a environ 7-8 ans.
Okay.
Puis ça l'avérait à jouer contre nous autres. Je vais vous expliquer qu'on avait une caméra, je pense, sur le casse.
Oui, je me souviens.
Durant la Four Nation, on l'avait sur nous. Là. Il y avait...
Personne
ne l'a vu, là. On en avait une ici dans le noir.
Ah, oui.
Il avait fait un trou dans notre gilet. Puis ça passait à travers tout ce que tu vois. Il fallait que tu sois proche vraiment là, pour voir pour le voir.
Oui, parce que je ne l'ai pas remarqué.
Oui, ben, exactement. Oh, ouais. Mais il y a 5-6 ans, ils l'ont fait. Ce qui arrive avec ça, c'est que, mettons, on manque un call. Ils vont regarder que le joueur il est drette en avant de nous autres. Comment il est fait pour le manquer? Mais ce qui arrive, c'est que ma tête, elle tourne, moi. Je passe la caméra, la regarde là, que moi, ça veut dire que je regarde là. Fait que ça jouait un peu contre nous autres. C'est sûr qu'on n'aimait pas ça. Par contre, ça s'en vient là. C'est, la game est tellement rendue rapide.
Mm-hmm.
On va souvent à des challenges, je sais, ou à des reviews pour des punitions de match, des punitions majeures. C'est pour le bien de la game. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, t'aimerais-tu ça, toi, que à toutes les fois tu fais un call? Absolument. C'est bon pour la game. Il y a du gambling, le monde gage là-dessus.
Oh,
oui. Je veux que la game soit officiée le plus juste possible pour les deux bords, mais il reste qu'il y a quand même du jugement. C'est pour ça que l'arbitre va toujours être là. Il n'y en a pas de punition black and white au hockey, à part la POC qui sort des estrades. Là. Il n'y a pas grande punition qui est black and white.
Puis un coach challenge, justement, quand vous refusez un but, exemple, un contact sur le gardien,
oui.
Il est pas bon. Puis là, après ça, ben justement, l'entraîneur dit non, moi, je veux qu'il soit bon. Là, après ça, comment on débat sur le fait que, OK, on peut peut-être l'accepter vu qu'il y a eu telle situation avant? Comment ça fonctionne?
Je veux dire, après le challenge, on s'est mis écouteurs, on a regardé le challenge, puis là, l'entraîneur Charles a dit non.
Ouais, c'est ça. De base, mettons, il n'est pas bon, on call un coach challenge, puis là, vous révisez une deuxième fois, mais initialement, vous avez dit que le but n'était pas bon. C'est ça que je voulais dire.
Sur la glace, on dit que le but n'est pas bon, c'est ça que vous dites?
Ouais, c'est ça.
Okay, sur la glace, on dit que le but n'est pas bon. Fait que là, l'entraîneur nous demande, il dit, le but devrait être bon parce qu'il n'y a pas eu d'interférence comme vous le pensez. Fait que là, les deux arbitres vont aller mettre leurs écouteurs.
Ça s'en va du côté de Toronto?
Ça s'en va du côté de Toronto. Fait que là, les deux officiels vont jaser avec les gars de Toronto, puis on va expliquer notre point de vue.
Mm-hmm.
Puis Toronto, ils ont tous les angles que tu peux pas croire. Il y a des,
ben oui.
Il y a des angles, des fois, tu te demandes aussi qu'ils prennent
caméra d'un patin.
Exact. Alors, c'est épouvantable, le setup qu'ils ont là-bas. Là, c'est un petit peu plus gros que votre setup en arrière.
Oui, c'est ça. On a 6 TV. Là, ouais, c'est ça. Puis je voulais en parler, une nouvelle convention collective qui va commencer l'année prochaine. Fait que là, on ajoute 2 matchs au calendrier. On va passer de 82 à 84. On avait vu ça dans les années 90, ouais. Mais là, ça va être un retour à 84 matchs. Puis pour vous autres, concrètement, y a-t-il des changements qui vont arriver?
Pour nous autres, moi, je suis content en maudit. Ça veut dire que je prends ma retraite dans 5 ans, il n'y aura pas de grève. Fait que je suis sûr de finir ma carrière sans
grève. C'est la première fois sous l'ère Batman qu'il n'y a, qu'il a pas de grève en tant que
Batman, tu sais, je sais que les gens ils ont chialé beaucoup après, là, mais il fait une maudite job pour les propriétaires et les joueurs.
Puis la valeur des franchises, Johnny, des franchises, on peut s'en parler longtemps.
Si on veut parler business, il a fait toute une job. Bon, je reviens à la question. Notre contrat, dans le fond, nous, c'est un contrat de 73 parties par année.
Okay.
Après ça, si on fait plus de parties que 73, ça devient des bonus. Alors, qu'ils nous en donnent 3 chaque, ben, ça va devenir des bonus. Ça ne change absolument rien pour nous autres, à part dû au fait qu'on va peut-être travailler un petit peu plus. Mais je pense que la Ligue va quand même engager 1 à 2 gars pour couvrir un certain nombre de matchs, parce que durant une saison, on a des blessures, des gars malades, des décès, des ci, des ça.
Fait qu'à ce moment-là, ça se peut que tu en fasses une coupe de plus. Là.
C'est ça. Ça va payer la bière pour l'été d'après.
OK. Ben écoute, Johnny, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. T'as une autre question, Mel?
Peut-être
ouais,
pour
vas-y.
L'école de hockey, pour les gens qui sont intéressés.
Oui,
comment ça fonctionne?
Si les gens sont intéressés, ben, je vais parler à 5 gens parce qu'il me reste seulement 5 places le 18.
Okay.
Alors, c'est l'école de hockey EPS, comme on disait tout à l'heure. Ça fait 21 ans que j'ai l'école.
Oui.
J'ai parti une nouvelle semaine. Alors, on va avoir 250 jeunes la semaine du 18 à août. À 2 endroits différents. Alors, l'aréna d'Ancienne-Lorette, par contre, elle est pleine. Il nous reste 5 places à l'aréna L'Intact à Sainte-Foy. On n'avait pas ouvert cette semaine-là, mais on avait à peu près 70 personnes sur une liste d'attente. Alors, on a parti à l'aréna de L'Intact. Alors, il nous reste 5 places. Allez sur le site, puis allez vous inscrire là. Puis sinon, allez voir. J'ai fait plein de beaux vidéos qui vont sortir dans environ 2 mois sur qu'est-ce qu'on fait sur la glace avec vos jeunes.
Okay.
Puis... c'est ça.
Mais on a vu une couple de commentaires sur le texto passé que c'est une très bonne école.
Non, c'est super. Parfait.
Yes.
Good.
Puis Johnny, moi, je vais avoir la chance de vous recevoir, toi et Julie, dans l'émission radio La Sexploratrice. On va parler des relations de couple avec des métiers atypiques.
Okay.
Et, parce que ça fait longtemps là, que vous êtes ensemble.
Ben, ça fait pas si longtemps que ça, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça fait 15 ans, c'est quand même longtemps.
Ça fait
15 ans, ça passe le test en masse.
Oh oui. Félicitations, merci.
Merci d'être passé en studio, Johnny.
Merci. Salut, la gang.
Le retour de Radio X.
Radio
Morée. Live.
Live. Avec Dominique Morée, Dan Gravel
Live.
Et Dom Dumas. Lundi au vendredi. 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Débutez l'année en beauté avec le fameux baril de poulet PFK. Le moment est toujours parfait pour déguster du PFK. PFK, c'est des produits 100% canadiens préparés sur place et frais en tout temps. De quoi régaler toute la famille. Passez nous voir chez PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-la-Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. Cet hiver, pensez PFK, le meilleur poulet frit au monde.
Sanivac, votre fournisseur de confiance depuis 1961. Besoin d'un service rapide? Sanivac est la solution. On a ce qu'il faut quand il le faut. Location de toilettes portatives et de roulottes sanitaires. Déglaçage à la vapeur pour éliminer rapidement la neige et la glace sur vos chantiers. Hydroexcavation pour creuser sans endommager vos infrastructures souterraines. Nettoyage d'égouts et pompage en tout genre. Nettoyage de trappes à graisse. Livraison et service rapide offerts en 24 heures. Inventaire, service, qualité. Peu importe tes besoins, choisis Sanivac.
Seul d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50% pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50% de rabais, dont tous les matelas Dauphin.
Les stations-service Arnois vous rappellent que trinquer avant de prendre le volant, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais trinquer avant de prendre le volant, ça, c'est une maudite bonne idée. Joyeuse fête!
Les stations-service Arnois vous rappellent aussi que c'est normal de manquer de gaz après son 5e party de Noël ou son 34e jeu de société. Mais c'est pas normal de manquer de gaz avec plus de 200 stations-service Arnois. Joyeuses fêtes.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le Space Cast.
Avec J.F. Blais. Et Louis Gauvin.
Radio X.
Ce que Mark Carney est en train de raconter aux médias, là, mais il dit le coût de la vie est toujours trop élevé. Bravo, Sherlock.
Ben oui.
T'es pas supposé être un genre de Mozart de la finance qui était supposé tout régler ça puis ne pas être le chien de poche de Trump?
C'est un peu pour ça qu'on t'a élu.
Oui, il me semble que c'était pas ça le deal, il me semble.
Bonne question.
Ah, mais, d'un bord, il reconnaît l'État de Palestine, OK, parfait. Puis de l'autre bord, il émet absolument aucun visa pour les Palestiniens venir au Canada. Ah, c'est-tu Trump qui a mis les points CI?
Est-ce qu'on arrête d'affaire un deux-faces?
Hein, pensez-vous? Posez la question, c'est un peu y répondre. Bref, dans un autre ordre d'idées complètement, j'adore ce genre d'entrevue-là. C'est ton idée, Louis, puis j'ai très hâte d'en apprendre davantage. Moi, j'aime les histoires de dépassement. J'aime les histoires de gens qui ont eu à vivre des épreuves dans leur vie et qui les ont surmontées et même qui ont rentabilisé l'épreuve ou qui ont défoncé le plafond pour en atteindre un nouveau. Puis, pour être bien franc avec toi, moi, je ne m'y connais rien du tout en paralympisme, en para-athlétisme. Je m'y connais pas du tout. Puis c'est un peu dans cette optique-là d'en apprendre davantage qu'on va jaser avec un Québécois qui, il y a à peu près deux semaines, a triomphé en finale du 100 mètres T52 présenté au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi, en Inde. C'est un gars de 32 ans, un Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un dénommé Anthony Bouchard, qui est donc maintenant champion du monde pour la première fois. On va aller le rejoindre. Il est au bout du fil. Salut, Anthony.
Salut, ça va bien?
Ça va bien toi-même?
Yes.
Hey, premièrement, félicitations pour ta grande victoire en Inde.
Merci beaucoup.
Peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que c'est T52? À nos auditeurs, puis à moi aussi, pour être plus franc, là.
Oui, ben nous, dans le fond, en para-athlétisme, ben, en fait, tous les sports paralympiques, on a des catégories pour nous différencier puisque on a différents niveaux de handicap. Puis c'est vraiment pour que ce soit juste dans la compétition, pour qu'on compétitionne contre des gens qui ont environ le même handicap que nous.
Okay.
Donc, en athlétisme, ce serait le T et F, T pour track, F pour field. Donc, track, tous les sports de course sur piste. Puis, field, c'est lancer du poids, lancer du javelot, des trucs comme ça.
OK.
Puis, 52, c'est pour lésion à la moelle épinière. Le 5 est pour la lésion à la moelle. Puis, le 2 est le niveau de lésion. Donc, ce serait de 1 à 4. 1 étant le plus affecté, 4 étant le moins. Moi, je suis T52, donc moi, je suis un quadraplégique, mais qui a la fonction de ses mains.
Okay.
En fait, non, c'est pas vrai. Quadraplégique avec une atteinte aux mains, mais la fonction des bras.
OK. Est-ce que T52, c'est utilisé dans... Et là, ça va être une expression très bizarre, mais dans ta vie d'handicapé, est-ce que c'est un terme que tu utilises ailleurs que dans le cadre de ton sport, T52? Genre quand tu vas à l'hôpital puis tout ça, est-ce que tu...
Oui, non.
Non,
pas du tout. C'est vraiment juste dans le sport. T'sais, moi, dans la vie, je suis, mettons, catégorisé dans mon handicap, c'est quad.
Ouais, OK.
T'sais, on dit un quad ou quadraplégique, mais on dit juste quad.
OK. Et quand tu t'es rendu en Inde là, pour la compétition, oui. Est-ce que tu savais que tu étais dans les favoris? Est-ce que tu croyais à tes chances? T'sais, à quel point ton sport est, entre guillemets, suivi et paramétré? T'sais? On parle souvent avec des athlètes de boxe ou de UFC qui sont en mesure de regarder des combats de leur adversaire à venir puis d'axer leur préparation autour de ça. Toi, à quel point c'est documenté puis à quel point tu croyais à tes chances?
Je rêvais d'un podium, mais c'était, tu sais, même un podium, c'était pas joué. Je dirais qu'on était environ 5 ou 6 qui avaient environ les mêmes temps sur le ranking. Donc, je pouvais pas arriver là-bas avec toute la certitude du monde. Puis, tu sais, je savais pas que j'allais partir avec une médaille nécessairement.
Okay.
Puis, j'avais compétitionné avec mes adversaires en début d'été en Suisse. J'avais aucune idée qu'est-ce qui s'était passé pour eux depuis ce temps-là. Donc, tu sais, moi, oui, j'allais plus vite depuis le début de l'été. Mais
peut-être eux autres aussi.
Exactement.
Ah, c'est ça. OK. La question peut paraître hyper loufoque, là, mais tu sais, l'Inde, c'est l'Inde avec le niveau de pollution. Ta préparation là, pour compétitionner en Inde, ça a-tu été de t'entraîner en fumant des clopes? Tu sais, je veux dire, pour vrai, est-ce que ça joue quand tu compétitionnes ou tu es trop focus dans ta tête?
Non, tu sais, juste respirer. Tu sais, le niveau de pollution là-bas était super élevé. Donc, je me rappelle le matin de ma course, juste faire mon échauffement. Tu vois qu'il y a moins d'air, que tu respires pas de la bonne air. C'est comme un peu, ça me donne un peu l'impression de respirer en altitude. Je sais pas si ça peut
donner
une idée, mais tu sais, le corps aime pas ça.
OK. Puis comment tu te. Parce que, tu sais, ça n'a pas été une surprise quand tu étais arrivé en Inde. Oh mon Dieu, l'air est dégueulasse. T'sais, j'imagine qu'on t'en avait parlé avant. Ta préparation, elle s'est opérée comment, justement, pour encadrer ce facteur-là?
Pour le facteur pollution, on n'a pas vraiment fait de préparation pour ça. On s'est dit qu'on allait. Tu sais, il n'y avait pas vraiment grand-chose qu'on pouvait faire. Mais on a essayé de s'acclimater surtout à la chaleur. On a fait des entraînements. Nous, on avait un camp d'entraînement pour s'acclimater avant à Dubaï.
Okay.
Donc, on a passé 10 jours là-bas à s'entraîner, puis c'était environ la même température. Il y avait moins de pollution, bien entendu, mais environ la même température. Donc, c'est surtout ça le plus gros enjeu. Mais on avait quand même une bonne équipe avec Kim Khan pour... il y avait des professionnels. Ma coach était là aussi pour être sûr que moi, j'ai pas trop chaud avec de la glace, des vestes refroidissantes, tous des trucs comme ça, pour être sûr et certain que j'arrive à ma course prêt, que j'ai pas trop chaud, puis que, tu sais, peut-être que là, moi, j'ai gagné sur mes adversaires et qu'il y en a certains qui avaient pas cette préparation-là.
Là, tu nous as parlé de ton camp d'entraînement qui a duré une dizaine de jours, mais avant ça, la préparation pour une course comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui monopolise beaucoup ta vie ou, tu sais, c'est une, deux, trois fois par semaine, à tous les jours, à quoi ça peut ressembler?
Oui, ben moi, dans le fond, je fais ça à temps plein. Tu sais, je suis considéré comme athlète à temps plein. Je fais ça, je vais 3 fois au gym par semaine, puis 4 à 5 fois sur la piste avec mon fauteuil.
OK, ça faisait partie de ma prochaine question. Donc, c'est possible d'en vivre du para-athlétisme?
Oui. C'est sûr que c'est pas un métier de millionnaire, mais oui, on réussit à vivre de ça quand même.
Est-ce que c'est juste quand on performe dans les plus hauts niveaux comme toi, puis qu'on gagne, ou... Quelqu'un qui, tu sais, mettons, finit d'un 9-10e peut aussi gagner sa vie avec ça?
Le Canada offre des bourses dès que tu atteins un certain niveau. Donc, je pense que ça, de ce côté-là, tu peux. Mais là, ensuite, il y aurait les commandites qui vont venir s'ajouter à ça. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore de commandite. Là, j'étais en discussion. Mais après tout ça, c'est sûr que là, ça va peut-être... Ça va peut-être plus se concrétiser, mais pour me rendre jusque-là, il n'y en avait toujours pas.
Comme on disait en introduction, là, nous autres, on est néophytes, on connaît pas ça, ces sports-là. Fait il faut pas que tu te sentes insulté de la question, mais est-ce que dans ton sport, il y a le même phénomène qu'en F1? C'est-à-dire que tu as bien beau être le meilleur et le plus fort, si... t'as une chaise qui est de piètre qualité, tu l'emporteras pas. Comme un conducteur de F1 qui a besoin d'un bon bolide. Oui. Lewis Hamilton, ça, il prend un bon char parce que sinon, il livrera pas. Est-ce que c'est le même cas pour toi?
De plus en plus. Je dirais que si tu recules de 20 ans, tout le monde avait environ la même chaise, donc il n'y avait pas de... c'est vraiment le plus en forme qui gagnait. Maintenant, c'est sûr que si t'as des... une chaise de plus de qualité, des meilleures roues, tous les détails sont importants sur le fauteuil pour te faire aller plus vite. Donc, oui, il faut que tu t'entraînes, oui, il faut que tu sois rapide, mais c'est sûr que la chaise vient rentrer en ligne de compte. Comme moi, avant de quitter pour les mondiaux, je sentais que j'avais besoin d'une nouvelle chaise pour changer un petit peu la position et tout ça. Donc, j'ai pas hésité. Je suis j'ai décidé d'en commander une cet été, puis je l'avais pour les mondiaux. Donc, tu sais, peut-être que ça a aidé aussi.
Y a-tu des compagnies qui se spécialisent dans des modèles génériques ou c'est vraiment fait sur commande pour les athlètes professionnels?
Il y a quelques compagnies. Il y en a des plus... Tu sais, il y a des fauteuils qui sont... En fait, c'est tout fait sur mesure, mais il y en a qui sont plus génériques un peu, on peut dire. Que c'est plus basique. Puis il y en a d'autres qui sont, mettons, tout en fibre de carbone... faites vraiment sur mesure, puis moulées, puis tous les trucs. Dans mon cas, ce serait vraiment une chaise en aluminium avec des pièces en carbone dessus, mais les pièces en carbone ne sont pas moulées à moi. Donc, c'est une chaise qui va quand même très bien pour mon niveau. Mais il existe mieux, c'est sûr.
Puis c'est dans quelle fourchette de prix un fauteuil comme ça de course carrément? Là, un vélo de nos jours, ça peut monter à 20-30 000 piastres. Est-ce qu'on parle des prix comme ça?
Oui. Tu sais, moi, je vais donner un exemple. Ma chaise, là, que j'ai commandée, j'avais pas besoin de roue. J'avais pas besoin de la fourche non plus. J'ai vraiment commandé seulement le frame, puis ça a coûté 7 000.
Quand même.
C'est des bons investissements. Tu sais, au début, les premières années que j'ai fait de la course en fauteuil, il a fallu que j'investisse. J'ai vraiment pris un risque, puis je me suis dit que j'y allais all-in, mais tu sais, j'ai investi une dizaine de milliers de dollars pour me starter, tu sais.
OK. Avant d'être sur le fil de départ, là, est-ce que vos chaises sont soumises à une inspection mécanique par des officiels de course?
Oui. Dans la chambre d'appel qui appelle, tout le monde se retrouve dans la chambre d'appel avant de s'en aller dans le stade. Puis... À ce moment-là, il y a quelqu'un qui inspecte, voir si les roues sont de la bonne grandeur, voir si la chaise a des trucs qui fonctionnent pas. Faut que le frein soit fonctionnel, faut que le volant fonctionne, faut que tous les trucs, oui, c'est vérifié.
OK.
Ouais, vas-y. Ça s'est-tu déjà vu, mettons, dans des courses un peu moins de haut niveau, des gens qui mettent des moteurs là-dedans, cachés d'une roue?
Ben, tu sais, je veux dire, je pense pas que ce soit déjà vu. Je pense pas, en tout cas, que personne ne s'est jamais fait prendre. Personnellement, je connais personne qui le fait, mais je veux dire, c'est pas impossible. Je crois que ça s'est déjà vu dans le monde du vélo, mais dans le monde du fauteuil de course, en tout cas, j'en ai pas entendu parler.
OK. Hey, je sais que tu as une entraîneuse, oui. Sauf erreur, une dénommée Nathalie, hein, c'est ça?
Appelez ça, Nathalie Séguin.
Parle-moi de elle un peu. Est-ce qu'elle, elle est en situation de handicap?
Non, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui avait fait son bac à l'Université Laval en kinésiologie. Puis je me souviens pas exactement. Je crois qu'elle avait fait un stage avec des personnes aveugles.
Okay.
Puis... Ça l'avait vraiment intéressé puis tout ça. Puis je crois qu'elle a décidé de réouvrir le volet parent qui était disparu depuis que Dean Bergeron et Chantal Petitclerc avaient pris leur retraite. Donc, il n'y avait plus de volet parent à Québec. Mm-hmm. Donc, c'est elle qui a décidé de redécoller ça.
Ah, mais tu l'as nommé Chantal Petitclerc. Probablement qu'elle, il y a un avant puis un après Chantal Petitclerc en termes de possibilités pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent se développer dans un sport parent. Là. Probablement qu'elle, elle a beaucoup changé la donne. Hein?
Oui, absolument.
Ça doit être une légende dans le domaine.
Oui.
Comment est-ce qu'on est mis en contact avec une Nathalie de ce monde? Hein? Comment, tu sais, c'est bien beau, toi, t'investis, tu t'achètes une chaise, tu prends les risques financiers pour tout ça, mais à un moment donné, ça te prend quelqu'un pour te coacher. Comment on te réfère à une Nathalie de ce monde?
Moi, en fait, j'ai commencé, j'ai pas acheté la chaise et tout avant. J'ai vraiment commencé. J'avais un intérêt, j'avais vu, je crois, une vidéo sur Internet de course en fauteuil, puis je trouvais que ça avait l'air le fun. Fait que moi, j'ai contacté Parasport Québec pour savoir à qui je devais m'adresser pour faire un essai. Puis eux m'ont mis en contact avec Nathalie. Fait que c'est vraiment avec Nathalie que j'ai commencé tout ça. On a fait un essai au PEPS avec un fauteuil qui faisait pas du tout pour moi. Mais eux, ils ont vu que c'est fait sur mesure, ils peuvent pas avoir 150 grandeurs de fauteuil. Fait qu'il y en a quelques-uns. Moi, j'ai essayé ça. Ça faisait plus ou moins. Mais je l'ai amené chez moi. Je modifiais avec des coussins, puis du duct tape. Puis j'ai réussi à faire de quoi de fonctionnel pour la première été. Puis là, c'est là que j'ai vu que j'aimais ça, puis que sais, il y avait du potentiel. Fait que là, j'ai décidé d'investir, mais j'avais déjà été mis en contact avec Nathalie avant.
OK. Est-ce que tu es né handicapé?
Non, moi, j'ai eu un accident de la route en 2011 dans le parc des Laurentides. On a rentré en collision avec un orignal.
Oh, shit! Ah, ouais. Il a dû avoir une espèce de... À quel âge t'avais, en 2011?
J'avais 18.
18? Hey, OK, 18 ans, t'as la vie devant toi. Mais là, tu l'as encore, là, clairement. T'as l'air d'un homme heureux, mais à l'époque, ça a dû quand même t'en donner un certain deuil, là, de te ramasser justement en chaise roulante et tout ça?
Ah, ben c'est sûr. Ça change les plans du tout au tout, là, tu sais... Je pense pas non plus que... Tout ce que je fais maintenant, c'est très loin de ce qu'on avait... de ce que j'avais en plan pour le futur avant mon accident. Mais tu sais, je veux dire, on réussit à refaire sa vie pareil. Puis je vis de très belles expériences maintenant. Puis c'est ça.
T'es-tu un gars comme naturellement positif? Parce que moi... Ça m'arrive, c'est sûr, c'est facile à dire là, parce que ça m'arrive pas, mais ça m'arrive, puis je me dis, bon, ben parfait, j'ai toutes les raisons pour me laisser devenir un obèse morbide en chaise roulante. Là. Mais toi, à l'inverse, t'as pas pris ce chemin-là. C'est-tu parce que t'es positif de nature ou à un moment donné, t'as pogné le fond puis t'as décidé de remonter?
Un petit peu des deux. Tu sais, je suis. Quand j'ai eu mon accident, je voulais justement voir qu'est-ce qui y était possible, mais tu sais, moi, je suis un petit gars de région, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que, tu sais, l'idée, c'était d'être capable de refaire de la moto ou du 4 roues, des trucs comme ça, fait que j'ai essayé longtemps autour de ça, mais je trouvais que c'était un petit peu comme tourner le fer dans le plein, parce que, tu sais, si tu faisais de la moto avant, ben faire de la moto après, ça sera jamais pareil, ça sera jamais aussi le fun, puis, fait que t'es aussi bien de juste canceller ça, puis trouver d'autres choses. Selon moi, je pense, peut-être que quelqu'un dirait autre chose, mais moi, ça a été ça ma recette, puis c'est vraiment ça qui a fonctionné.
Y en a-tu justement des bébelles à gaz, 4 roues, skidou, côte à côte de ce monde pour les handicapés, justement?
Oui, tu sais, j'ai eu un côte à côte, j'ai pas vraiment aimé, je trouvais que... Mais tu sais, moi, je faisais de la moto avant. Là, côte à côte, c'était un petit peu trop loin. Après ça, j'ai eu un VTT plus de sentier, pas encore... Je faisais pas encore mon affaire. Puis avant de déménager à Québec, là, je m'étais acheté un VTT Sport que j'avais adapté avec pour changer vitesse au pouce. Puis ça, c'était quand même cool, mais encore là, c'était pas identique. Fait que là, j'ai vraiment décidé de tout vendre ça puis d'aller vers une autre direction.
OK. Encore une fois, une affaire que je me suis déjà dit, ben franchement, mais j'ai très peu de connaissances sur les sports parents, là, mais dans le temps des fêtes, à chaque année, je me dis, hey, moi, j'essaierais ça, le hockey sur luge. T'es un gars du Saguenay, c'est clair que t'as le hockey, à quelque part, ça a fait partie de ta vie à un niveau ou à un autre, là, sans être un grand fan, je sais pas trop, là, mais est-ce que tu l'as envisagé, ça, jouer au hockey sur luge?
Même pas. Tout le monde, tous mes amis étaient des joueurs de hockey, puis moi, ça m'a jamais vraiment attiré. À la base, je suis pas vraiment un gars de sport d'équipe, j'imagine. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais de la planche à neige aussi. J'ai pensé aussi au ski alpin adapté.
Ouais, mais même du snowboard, il y en a, je pense. Hein?
Je sais pas, snowboard, comment est-ce qu'on pouvait... Peut-être.
Il me semble que j'ai déjà vu ça, mais je peux me tromper.
Mais on dirait que j'avais comme les deux en tête en m'en venant à Québec, puis finalement, l'athlétisme m'a pris le dessus, puis j'ai juste pas vraiment eu le temps d'essayer. Mais oui, le ski alpin dans le futur, j'aimerais essayer.
OK. Est-ce que tu as déjà participé aux Jeux olympiques, aux Paralympiques?
Oui, j'ai participé aux Paralympiques l'année dernière à Paris.
Ah ouais, comment tu as trouvé l'expérience?
Ah, c'est incroyable, c'était vraiment plus grand que nature. C'est les jeux paralympiques, c'est des jeux multisports. T'es avec tous les athlètes de tous les autres sports dans un village paralympique. Puis c'est vraiment une expérience incroyable.
Il faut que je te le demande, j'ai pas le choix, parce que quand on parle des Olympiques, le village des Olympiens, on nous dit que c'est la place. Un coup que les épreuves sont passées, ça a l'air que c'est la place la plus wild de l'histoire de l'humanité, à un point tel qu'ils distribuent des condoms aux athlètes. Là. C'est pas moi qui l'invente. Est-ce que du côté para, c'est la même affaire?
Je pense que ça brasse un peu moins.
Ah ouais, mais ça brasse quand même un peu.
Ça doit brasser aussi, puis je pense qu'ils distribuent aussi des condoms aux athlètes, mais non, je pense que ça brasse un petit peu moins. Mais oui, j'ai entendu parler aussi du côté olympique que c'était assez... assez heavy.
Pour en revenir un peu à la course, tu peux pogner combien en termes de vitesse sur un 100 mètres avec ton fauteuil?
Je pense que au dernier, je pense que vers la fin de l'été, j'étais rendu dans les 29 km/h.
Oh shit! Quand même, tu vas plus vite que quelqu'un qui court?
Oui, je vais plus vite que quelqu'un qui court, mais c'est le brisé comme le momentum qui est plus long. Fait que, tu sais, mon départ est beaucoup plus long dans un fauteuil que quelqu'un qui court.
Ouais.
Fait que mon 100 mètres est quand même plus long que les coureurs de 100 mètres de ce monde.
Ton training, parce que j'imagine que tu fais de l'entraînement en salle, ça consiste à quoi essentiellement?
Ça dépend de la période de l'année. Tu sais, on va surtout travailler le haut du corps, en fait, ce qui va être nécessaire. Parce que moi, dans le fond, j'ai ma lésion au niveau C7, ce qui veut dire que j'ai pas de muscles qui fonctionnent en bas de mes pectoraux.
OK.
Fait que, tu sais, je vais surtout travailler le haut du corps, le dos, les biceps, triceps, les avant-bras, les pectoraux, puis les épaules.
Fait que les abdominaux, dans ce que tu fais, ne sont pas mis à contribution. J'étais convaincu qu'il fallait que tu tires des abdominaux parce qu'à un moment donné, surtout sur votre départ, là, on dirait que la roue lève en avant. Fait que je me dis, de sûrement forcer pour ramener ça.
Oui. Non, même pas. Puis c'est pour ça qu'on est dans une position aussi couchée que ça, parce que si j'étais plus relevé, ben là, justement, comme tu dis, en poussant, ben moi, j'irais vers l'arrière au lieu de pousser vers le bas.
Okay.
Tandis qu'en étant complètement couché, ben là, il y a le poids de mon corps qui vient. Mais non, c'est un critère de nos catégories qu'on n'est pas supposé d'avoir d'abdos. En tout cas, il y en a qui en ont un petit peu, mais je pense que ça commence à être difficile un peu de classer tout le monde aussi à un moment donné, mais ouais, on n'est pas supposé avoir d'abdos.
Dans le monde du sprint, notamment sur le 100 mètres, il y a eu des calculs qui ont été faits comme quoi un certain temps au 100 mètres serait comme imbattable. Puis après ça, Usain Bolt est arrivé, puis l'a battu ce fameux temps-là. Puis depuis, il n'y a personne qui s'est rapproché de ça. Quoique tout le monde s'en rapproche de plus en plus sans jamais le dépasser. C'est comme la limite maximale qu'un humain peut atteindre là-dessus. Est-ce que dans ta discipline, cette limite-là est atteinte ou de compétition en compétition, les limites sont repoussées?
C'est repoussé. Plus ça avance, plus les fauteuils sont... plus la technologie avance, puis la manière de l'entraînement change aussi. Les gens sont plus spécialisés aussi maintenant qu'avant. En fauteuil roulant, la mode avant, c'était que les gars couraient le 100 mètres jusqu'au marathon. Fait que tu avais un gars qui arrivait au jeu puis qui faisait toutes les épreuves. Fait que c'est sûr que c'est plus dur un peu de s'entraîner très spécifiquement dans une distance quand tu les fais toutes. Fait que je te dirais que c'est de plus en plus rapide. C'est de plus en plus rapide.
Est-ce que sans nécessairement, pas toi nécessairement, mais est-ce que le dopage, c'est un nuage qui plane au-dessus des Paralympiques au même titre que des Olympiques régulières?
Nous, le dopage serait surtout la classification. Donc, il y a des gens qui essaieraient peut-être de tricher un peu leur classification pour être mis dans une classe plus bas.
OK.
Donc, ils ont plus d'aptitude, tout simplement. Fait que c'est sûr et certain qu'ils sont plus rapides.
OK, je comprends.
Fait que ce serait ça, nous, le plus grand dopage, le plus grand danger. Il y a probablement du dopage aussi, mais tu sais, nous, au Canada, on est testés très rigoureusement. Fait que ce serait quand même dur d'y échapper, mais probablement qu'il y a du dopage aussi, mais je te dirais que c'est vraiment les classifications qui sont le plus problématiques.
OK, c'est pas quelque chose qui est discuté dans ton domaine, là, tel. C'est très anecdotique. OK.
Ouais, pas vraiment.
OK. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Là, comme on mentionnait tantôt, tu reviens de l'Inde. J'ai cru comprendre que, je sais pas si c'est le village paralympique qui te parle à ce point-là, mais tu seras des prochaines Paralympiques de 2028, je crois?
Ben, on le sait pas encore vraiment. Tu sais, faut se classifier.
OK.
Le Canada, dans le fond, c'est vraiment super compliqué, mais nous, on a des spots qui sont alloués. Chaque pays a des spots alloués selon les performances des championnats du monde, selon les performances de... Il y a d'autres critères aussi, mais on va avoir des spots alloués. Comme, par exemple, aux Jeux de Paris, on avait 20 spots, donc 10 garçons, 10 filles. Fait que le Canada envoie seulement 20 athlètes au total. Donc là, après ça, il faut se battre avec
tes collègues, là, carrément.
Nos confrères canadiens pour savoir qui va y aller. Ce serait les 20 meilleurs qui vont y aller. Puis on doit être, je sais pas, 30 ou 35 sur l'équipe. Fait que, tu sais, il y en a qui... Il y en a qui n'iront pas malheureusement, mais...
Là, tu viens d'être nommé champion du monde. D'après moi, tes chances sont bonnes. Je veux pas te jinxer, là, mais d'après moi, tes chances sont pas pires, là.
C'est sûr que ça augure bien, mais c'est pas joué tant que c'est tant qu'on n'a pas la confirmation.
Mais tu as cet objectif-là d'être au Paralympique.
Oui, 2028, c'est sûr que c'est le gros objectif.
OK.